Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Silence on joue, Erwan Cario. Bienvenue dans Gâchette Gauche. Bienvenue dans le 12e épisode de Gâchette Gauche. Chaque dernier lundi du mois, oui, je copie-colle mon introduction, vous allez faire quoi ? Nous débattons autour des grands sujets du jeu vidéo et accessoirement de son traitement médiatique. C'est une émission enregistrée en live sur Twitch, mais qui sera aussi disponible sur YouTube et en balado-diffusion dans le flux de Silence on Joue. Cette émission est construite comme d'habitude, mais non. Pas du tout comme d'habitude. Je vais faire court. La structure de l'émission, qui était auparavant un débat d'actu, un débat de fond, bah, c'était parfois un peu compliqué à construire, surtout quand les sujets de fond, eh ben, c'était mes sujets de fond à moi, ce qui limitait énormément la diversité des angles. Donc je me suis dit que c'était idiot de ne pas profiter du talent et de l'expertise des personnes présentes et de ce, je cite Gaëtan sur Blue Sky, de ce cast de dingo n'empêche. Voilà, hein, c'est Gaëtan, je cite. Bref, dorénavant, les journalistes présentes et présents viendront avec un sujet qu'ils ont déjà traité ou supervisé au sein de leur rédaction. On va voir comment ça va se passer. C'est un peu un nouveau pilote, mais j'ai plutôt une bonne intuition. Mais je vais commencer, bien sûr, en accueillant mes trois camarades ici présentes et présents. Pour elle, c'est une première dans Gâchette Gauche, mais sa présence relève, en fait, de l'évidence. En effet, le journalisme jeu vidéo, on peut appeler ça une vocation pour elle. Après 4 ans passés à alimenter avec talent les pages de JV, elle a cofondé l'année dernière Origami, et elle s'est même permise, au passage, de lancer depuis la meilleure émission sur les cultures d'Internet. Et j'ai même pas de même Shrek à afficher pour lui souhaiter la bienvenue, Héloïse Vinossier. Salut Héloïse.
Mais quelle introduction incroyable, merci ouais, beaucoup voilà. Erwan de m'avoir invité et d'avoir fait ce petit speech fort sympathique.
Mais oui, et on va reparler de la meilleure émission sur les cultures d'Internet après, hein. on a le temps hein, en milieu d'émission.
Avec plaisir.
J'ai le plaisir de la côtoyer une semaine sur deux sans silence en jouer et de profiter entre autres de sa passion pour les trucs qui font peur que moi j'ose à peine lancer. C'est la rédactrice en chef d'un canard de 20 ans d'âge. On va d'ailleurs en reparler de ses 20 ans d'âge d'ailleurs. Et ça on impose. Julie Le Baron, salut Julie.
Coucou tout le monde.
Mais oui, c'est la première des deux émissions qu'on va faire ensemble cette semaine. C'est la première des deux émissions que tu vas faire avec Héloïse cette semaine, comme
non,
quoi.
Oui.
C'est un début de semaine, hein, finalement. Hein, c'est juste ça.
Non, mais elle va être très cool cette semaine. Elle va être vraiment cool.
Elle va être vraiment cool. Et enfin, c'est sa deuxième apparition dans Gâchette Gauche et c'est un vrai plaisir de le retrouver ici. Il décrypte le jeu vidéo pour la rubrique Pixel du Monde, toujours avec des angles originaux. Ça tombe bien, hein, vu la nouvelle construction de Gâchette Gauche. Et puis, c'est vrai, ça. Pourquoi il y a de plus en plus de jeux avec des noms français, hein. On en parlait d'ailleurs.
Oui, on en
antenne avant.
On parlait de la prononciation approximative de la plupart des journalistes français, et bien sûr, on s'inclut dedans des titres anglais, ouais.
Et depuis, on peut se venger envers les journalistes anglais qui doivent prononcer Dordogne. Voilà, hein, c'est bien fait pour eux. Pierre Trouvé, salut Pierre.
Salut Erwan, salut à tout le monde. Merci pour l'invitation. Voilà. J'espère que vous aimez mon fond blanc. Voilà.
mais oui, il n'y a pas de problème. Super. Et puis, à propos de jeux français, j'en profite qu'il faut jouer à Promenade. Mais hein, je le dis jamais assez, je fais un lobbying perpétuel.
C'est vrai,
pour,
non mais voilà. Jouer à Promenade, pareil.
il faut jouer
pareil,
à Promenade.
Pareil, auprès des enfants, auprès des adultes, auprès de tous les gens que je croise, c'est terrible.
Alors les enfants,
sur la prononciation, il m'a dit qu'il y a des Américains qui lui ont demandé si on disait Promenade ou Promenade.
Mais
je
oui.
trouve ça très chic.
Promenade, et oui. Ben écoutez, c'est parti pour ce 12e épisode de Gâchette Gauche, et puis on va commencer juste avec donc ces différents sujets. Tiens, je crois que j'ai même un titre qui va s'afficher, la compétence des arbres, j'ai appelé ça parce que ça, on a un
blague, oh voilà.
La compétence des arbres, c'est un sujet que toi tu as traité dans le dernier Canard PC, parce que oui, en plus c'est, ce qui est cool, c'est qu'avec cette nouvelle formule on va pouvoir justement montrer un peu les différences de traitement et les choses comme ça dans les différents canards. Tu as un dossier qui s'appelle « Avec les artistes qui végétalisent les jeux », sous-titre « Focus sur les ficus », on ne se refait pas. Donc ça parle de quoi ce papier, Julie ?
Alors, ça parle de... Bon, alors c'est vrai que le titre est un peu... Bah, en gros, ça parle de personnes qui font de la modélisation de plantes, de végétation, de fleurs, enfin d'arbres, dans des jeux vidéo, qui reviennent un petit peu sur les raisons qui les ont poussés à se tourner vers ce métier, avec un petit passage un petit peu sur la technique, mais c'est pas trop ce que j'avais envie de mettre en avant, moi, mais ouais, c'est surtout... Moi, c'est vraiment parti de... J'ai joué à Alan Wake 2. J'ai vu le générique défiler, et j'ai vu la mention d'un métier que j'avais jamais croisé auparavant, c'est Lead Vegetation Artist. Et donc c'est... alors possible que j'écorche son nom, mais c'est Antipomio qui fait ça pour Remedy, et je me suis dit mais génial, enfin je ne savais pas du tout qu'on pouvait être lead vegetation artist, je me demandais vraiment ce que ça pouvait impliquer, et c'est vrai que, enfin mine de rien, on sait qu'il y a toujours de la végétation dans les jeux vidéo, que c'est important, mais j'étais vraiment curieuse de savoir comment est-ce que ça se passe concrètement pour les personnes qui travaillent sur ce type de modèle.
Et t'es parti de ça, juste les arbres et le lead vegetation artist, donc Antipuomio, moi aussi je l'écorce.
Ouais, c'est ça. ouais, j'ai aussi parlé à une femme qui a un profil assez intéressant. Alors elle s'appelle Kay Luthor et elle est productrice sur un stimulateur de jardinage qui s'appelle Garden Life. Et son profil m'intéressait parce qu'elle est fleuriste. Elle, vraiment à l'origine, elle avait un parcours de fleuriste. Elle est passionnée par les plantes et fleuriste de compétition, c'est-à-dire qu'elle faisait beaucoup de concours en Angleterre avec ses compositions florales. Et quand j'ai su qu'elle s'était tournée vers le développement de jeu, ouais, j'étais vraiment curieuse de savoir comment elle avait fait la passerelle. Et en fait, elle, c'est assez particulier. C'est que pendant la pandémie, elle trouvait pas du tout de travail en tant que fleuriste dans l'événementiel et ça paraissait logique à ce moment-là de se tourner vers les jeux vidéo. Mais ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle avait déjà vraiment un gros amour pour les jeux vidéo. Et surtout bah, pour la végétation dans les jeux vidéo. C'est qu'elle cite volontiers des mondes ouverts dans lesquels elle a traîné pendant des heures juste pour regarder les plantes. C'est donc The Witcher 3 en fait partie. Et moi, je me rends compte que j'ai, et je pense pas être la seule, j'ai ce rapport-là aussi à la végétation dans les jeux. Il y a des endroits où j'aime me promener. Pour peu qu'il y ait des arbres qui bougent au gré du vent et une certaine variété de plantes, enfin en tout cas par exemple Red Dead Redemption 2, c'est un jeu dans lequel je prends plaisir à revenir juste pour voir la variété de la végétation, quoi.
Mais tellement, juste par curiosité, parce qu'en fait t'as la deuxième personne que t'as citée, la fleuriste, elle bosse sur un jeu de jardinage, me semble-t-il.
Oui, qui est sorti, ouais.
Tu l'as trouvé comment ? Parce que autant le premier, tu étais tombé dessus sur le générique, mais c'est... Après, tu te dis, je vais faire un dossier sur les plantes dans les jeux vidéo. Après, comment tu fais ton casting de gens qui ont bossé sur le sujet ?
Bah alors, là, justement, j'ai que deux intervenants, malheureusement, parce que j'avais un temps assez limité pour faire ce sujet, mais en gros, souvent, je vais sur Moby Games. Je pense, en fait, je regarde les jeux où la végétation a une part importante et j'essaie de voir, voilà, s'il y a un artiste qui a été crédité vraiment spécifiquement pour ça. Et puis c'est comme ça que je commence mon casting. Et puis après, bah, Il faut trouver les personnes qui acceptent de répondre, mais surtout celles que les studios autorisent à répondre. Parce que même sur un sujet aussi innocent que la végétation dans les jeux vidéo, c'est pas évident. Enfin, j'avais fait un sujet par le passé un peu plus général sur les artistes environnementaux. Enfin, je sais pas trop comment... Les environment artists. Et même là, c'était compliqué, en fait, parce que t'as beau arriver en te disant, voilà, j'aimerais mettre en lumière un petit peu votre métier, etc. Dans la tête des développeurs, et puis même parfois c'est stipulé sur leur contrat, parler aux journalistes, c'est pas toujours recommandé. Donc, ouais, ça implique de passer par plusieurs cerceaux enflammés avant d'avoir une réponse, quoi. Et souvent une validation du studio.
Vous, la végétation et tout ça, vous êtes pareil, contemplatif ou pas du tout ?
Moi, j'ai tendance à l'être aussi, et j'ai remarqué qu'il y avait aussi des nouvelles manières de consommer, de pratiquer certains jeux vidéo par rapport à tout ça. Je sais pas si vous connaissez le concept de cottagecore.
C'est quoi ?
Alors, c'est quoi le cottagecore ? C'est une vision un peu idéalisée de la vie champêtre, qui est vachement axée sur pas mal d'occupations manuelles, comme le tricot, ce genre de choses, et c'est une vision un peu c'est à la Jane Austen, en fait, tu vois, vraiment de la, et en fait c'est quelque chose qui est hyper prenant pour la génération Z, en fait, qui veut avoir un retour, rien à voir avec les tradwife, etc.,
c'est
côté plus politique. Là, c'est vraiment vouloir un retour un peu à une vie simple et proche de la nature, et c'est une esthétique surtout, en fait, cottagecore. C'est des filtres sépia, etc. Et en fait, par rapport à ça, il y a pas mal de jeux déjà qui se lancent par rapport à cette esthétique-là pour capter cette audience-là. Et puis, il y a aussi j'ai vu un TikTok qui parlait d'une meuf qui jouait à Elden Ring, mais pour aller cueillir en fait des fleurs, par exemple, dans le paysage. Et il y a pas mal aussi de personnes sur Red Dead qui ont cette même, comme toi Julie, qui ont ce rapport-là, ou même pour collectionner les chevaux aussi, ça devient un jeu de chevaux. Mais du coup, c'est hyper intéressant de voir cette réappropriation comme ça, via la nature, via cette vibe-là, cottagecore, de jeux qui n'étaient juste pas prévus pour ça. The Witcher aussi, t'en parles, je crois, dans ton, ton papier à Julie. C'est exactement la même chose. Et il y a pas mal de gens qui jouent comme ça. Et puis moi, j'adore ça. Juste me balader dans les jeux.
C'est vrai.
J'adore. Ouais.
Pierre aussi ou pas ?
Ah, moi, je suis méga plante. C'est-à-dire chez moi, bon, là, ça se voit pas, mais il y a vraiment énormément de plantes. Et même à mon bureau sur le monde, j'ai une collection. En fait, oui, je suis hyper intéressé. Et j'ai pu discuter avec des gens qui faisaient de l'environnement, enfin, direction artistique environnementale, pour lors de la sortie de Terranil. Je ne sais pas si vous voyez ce reverse city builder où on restaure la nature. Et c'était hyper intéressant de discuter avec eux là-dessus, sur la nature un peu méditative. Ils se sont rendus compte qu'en fait, le phénomène de revégétaliser avait un côté très apaisant sur les gens. Et qu'il y avait un truc aussi qui se jouait pas que sur le visuel, mais aussi sur le son. C'est-à-dire qu'il faut créer des environnements sonores. Plus ils revégétalisent et plus on entendait les petits insectes, les petits oiseaux et tout. Ça, j'ai trouvé ça super. Et d'avoir discuté aussi avec Noyo. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est un développeur allemand qui a fait Kingdom et Kingdom to Crown. Il a aussi fait Cloud Garden, qui est peu connu, qui est une sorte de townscaper de la nature, où on revégétalise... un peu après dans un monde post-apocalyptique. Et lui, en tant que développeur, j'ai rejeté un œil à l'interview qu'on avait eue, me disait qu'il retrouvait énormément de choses algorithmiques dans la création de plantes dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que on peut facilement faire un petit peu d'aléatoire avec des algorithmes pour créer, entre guillemets, un côté organique. Que le fait de démultiplier des arbres pour créer une forêt puis ensuite l'altérer un peu, c'est un truc qui est propre aux jeux vidéo. Et même pour revenir à un jeu qu'il avait enfant, qui était, savait faire des rosaces et ça fait des fleurs, et ben en fait, dans la nature, on retrouve pas mal de choses fractales qui sont très faciles à faire dans les jeux vidéo. Et il avait eu toute une réflexion esthétique sur le lien puissant entre coder des plantes, en fait, représenter la nature. Et je pense que c'est un truc qui va s'accélérer quand on voit... voilà, la nature dans Alan Wake qui prend une part assez énorme, c'est un personnage à part entière, la forêt, quoi, notamment.
Oui, c'est clair, c'est clair.
C'est le lead vegetation artist dans ton papier, Julie, qui explique que toute la végétation dans Alan Wake, elle est correcte, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des arbres, c'est des types d'arbres, c'est des types de végétation qu'on retrouve effectivement. Ils avaient fait le lac Crescent et Kino, dans la région dans laquelle se passe Alan Wake. Ils avaient pris des photos, photogrammétrie et ce genre de choses. il y a une recherche comme ça de la... Mais je pense que c'est plus une logique de cohérence de l'écosystème, en fait. C'est même pas un truc purement documentaire. C'est, il faut que tout soit cohérent, en fait. C'est assez fou.
Ouais, c'est ça, parce que comme tu l'as dit, Pierre, c'est vrai que la forêt de la... Fin... Le nord-ouest du Pacifique, en tout cas, c'est réputé pour ça, pour sa végétation, ses forêts côtières qui sont super belles. Enfin, tu regardes le nombre d'espèces qu'il y a présentes là-bas et ouais, c'est ultra foisonnant. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est imaginer vraiment cette équipe d'artistes qui se pointent là-bas et qui passent leur temps, qui passent 3 semaines à prendre des photos d'arbres pour avoir assez de références documentaires et qui après assemblent. Mais toujours à partir de modèles qui existent réellement dans la nature. Je trouve ça fascinant. Et c'est des trucs en plus, enfin, comment dire? Je veux dire, moi, je m'en rends pas nécessairement compte, étant pas une experte botaniste ou genre, je regarde et je me dis pas, attends, mais c'est n'importe quoi, pourquoi ils ont mis un pruche alors qu'il y en a pas dans la forêt? Mais j'apprécie vraiment ce sens du détail et de l'effort parce que tu sens qu'il y a un réel amour des plantes qui, certes, va peut-être passer inaperçu aux yeux des joueurs, mais en tout cas, on constate tous que la forêt a été particulièrement soignée, qu'elle a fait l'objet vraiment, ouais, d'un travail considérable, quoi.
Et dans la recherche, dans la recherche d'ambiance aussi, dans une forêt, surtout dans Alan Wake, où tu vas avoir des changements d'ambiance assez brutal, je pense, d'aller chercher des inspirations sur comment est-ce que la luminosité elle passe à travers les feuillages, comment est-ce que tu peux assombrir tout ça et tout. Ça doit être hyper important de pouvoir aller sur le terrain et se payer aux frais de l'entreprise quelques jours en camping.
Ouais, c'est clair. Un peu de camping, des photos de rondins. Donc c'est vrai que ça sonne trop bien, quoi. Non, et puis c'est vrai que là, dans le cas d'Alan Wake, la forêt, c'est bon, c'est certes important, mais ça reste des endroits qu'on traverse dans le jeu où on va, enfin, en tout cas, je pense pas relancer Alan Wake 2 comme j'ai relancé Red Dead par exemple, où je vais me dire tiens, je vais me balader, etc. Mais je trouve ça chouette en fait de voir que ouais, ce soin est aussi apporté à des niveaux que certes on va traverser une fois ou deux, enfin ça dépend le nombre de fois qu'on compte faire le jeu, mais ouais, je trouve ça vraiment très très cool, quoi.
Il y a un truc que tu as dit au début, Julie, qui m'a un peu interrogé, c'est t'as dit je parle un peu de technique même si j'avais pas très envie. Ou c'était pas mon angle original. Or, j'ai quand même l'impression, mais c'est peut-être moi, c'est totalement subjectif, j'ai quand même l'impression que la technique, pour le coup, est super importante dans la possibilité de construire des écosystèmes. J'ai appris avec ton papier qu'il y avait un je sais pas si c'est un soft ou un moteur qui s'appelait Speed Tree qui permet de faire des arbres. Déjà, je rêve d'avoir Speed Tree sur mon PC pour faire des. Enfin, ça doit être hyper cool. Mais j'ai quand même l'impression que c'est aussi une question, la végétalisation, pas forcément le réalisme, mais le fait que de pouvoir transmettre des choses avec la nature, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Moi, je me rappelle encore, même dans les jeux en 3D, de ces sprites d'arbres qui restaient de face, même quand on tournait autour. Je sais, j'ai pas d'exemple de jeu, mais c'était vachement souvent, en fait, même je me demande dans les premiers, genre Oblivion ou les trucs comme ça, enfin, tu devais avoir des sprites d'arbres qui restaient vraiment, qui n'étaient pas du tout en 3D, quand tu tournais autour, il restait de face. Enfin, et cette capacité à retranscrire la nature est en fait assez, assez récente. Et donc, c'est finalement très technique aussi.
Oui, bah après, je pense que. Enfin, moi, j'aurais bien aimé m'étendre sur la technique, mais je pense, en fait, je me suis rendu compte que ça nécessitait presque un sujet à part entière sur la modélisation en général. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté où on pourrait partir du principe que c'est des assets qui ont été récupérés sur Unity ou un truc comme ça et qui ont été vaguement modelés, mais non, ou que c'est de la génération procédurale, mais en fait, non, il y a vraiment une sorte de travail d'artisanat derrière, même sur des gros AAA comme Alan Wake. Mais par contre, ouais, sur le côté technique, je pense que je pourrais remplir 3 pages aisément avec tout ce qu'on m'a raconté rien que sur ce sujet. Et là, je me suis dit, bon, à moins de faire un article de 8 pages sur les arbres, qui est un sujet qui me passionne néanmoins, ça serait compliqué, mais ouais.
Il y a un truc, juste pour... Enfin, je veux pas m'éterniser, mais il y a plein de remarques, y a plein de remarques dans le chat. Mais moi, ça m'a rappelé un truc, ton article, c'est... alors ça... c'est un truc peut-être de vieux, mais c'était, je crois, le 3-2006 ou dans ces eaux-là, c'était l'annonce de Fable 2, donc le deuxième épisode de la saga de Peter Molyneux. Et il y avait, franchement, Peter Molyneux, il avait fait un focus, je crois me souvenir, je pense que c'est le cas, où en fait, une des grosses promesses de Fable 2, c'est qu'on va pouvoir voir pousser les arbres, voir pousser les plantes. C'est-à-dire que le jeu, ce qui était une sorte de simili monde ouvert pour l'époque, une des grandes promesses, c'était que les plantes allaient pousser avec le temps, c'est-à-dire que grosso modo, un petit arbre, quand le joueur il revient deux semaines après, il a un peu grandi, etc. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un univers avec les open world. En plus, les open world, c'est quelque chose, hein, la végétation dans les open world. Mais il y a quand même ce... On me dit d'ailleurs qu'il avait promis ça pour le 1 aussi. Alors, c'est peut-être une promesse qui remonte au 1 carrément. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de fantasme avec la nature dans les jeux vidéo. En fait, c'est quelque chose qui est... qui date d'il y a très longtemps, ce fantasme de représenter, je sais pas d'où je vais là-dedans, hein, mais de représenter le fait que des arbres qui poussent et de la nature qui vit dans les jeux vidéo, c'est peut-être un des fantasmes ultimes. On est en train d'y arriver peut-être, mais j'en sais rien. Il y a quelque chose...
Ouais. Non, c'est marrant parce que tu me fais penser à un truc, mais qui est beaucoup plus... je pense à Life is Strange, vraiment, où t'as pas la promesse de voir une plante qui pousse, mais moi j'ai eu un rapport émotionnel avec la plante de Life is Strange parce que elle s'appelle Lisa, déjà, je crois, donner un prénom aux plantes, ça marche toujours très bien sur moi. Mais où t'as une espèce de sens de responsabilisation parce qu'en gros, tu peux faire le choix de l'arroser ou non, et ça a des conséquences. Et je repense en fait à ce moment où je m'étais dit, bon, moi je vais l'arroser plein de fois. Et en fait, constater plus tard que je l'avais noyé, ça... enfin, on parle vraiment d'une ambition moindre, hein, par rapport à ce que Molineux évoquait avec Fable. Mais en tout cas, ça montre bien le pouvoir de l'émotion. Enfin, ça va être très très difficile de parler de sujet sans avoir l'air d'une hippie. Mais en tout cas, à quel point on peut se sentir investi émotionnellement auprès d'une plante, quand bien même on la croise très rapidement dans un jeu. Et j'ai l'impression que... En tout cas, en tant que joueuse, j'ai toujours un rapport fort avec la nature dans les jeux vidéo, même quand c'était représenté par des sprites, ou des, pas forcément des sprites, mais en tout cas des espèces de d'amas de polygones. Et il y avait une étude assez intéressante, un article qui a été publié dans Ecopsychology sur le rapport des joueurs à la nature dans les jeux vidéo, et vraiment, ça portait spécifiquement sur World of Warcraft, où les joueurs avaient été interrogés sur c'est quoi les endroits que vous aimez le plus fréquenter dans World of Warcraft, et... à quoi ressemble votre rapport à la nature au quotidien. Et alors, je vais pas dresser de parallèles ultra rapides, mais effectivement, il y avait beaucoup de gens qui préféraient des zones luxuriantes plutôt que des déserts. Et certaines de ces personnes étaient des personnes qui vivaient en milieu urbain et ils voyaient un peu une sorte de possibilité d'évasion qu'ils n'avaient pas forcément dans la vraie vie. Mais voilà, c'est...
Ouais, et je pense aussi qu'on s'est focus beaucoup sur la diversité de la faune plus que la flore, et qui était vraiment le signe que voilà, il y avait des moyens dans le jeu. Regardez, il y a des renards, des lapins, ce genre de choses. Alors que finalement, tu te retrouvais juste avec des couloirs d'arbres où il y en avait deux types. Il y avait des conifères et puis voilà.
Ouais.
Et puis et c'est vrai que maintenant, on voit plus. On parlera plus tard de Dragon's Dogma, je pense. Mais dans Dragon's Dogma, il y a beaucoup de moments dans la forêt, mais il y a surtout des moments dans la forêt, à côté de Vermund, à côté d'une ville où on va revenir souvent, où il y a un gros travail qui a été fait sur le fait de voir que c'était une forêt qui n'était pas aussi touffue que celle d'avant, et du coup, tu arrives à créer vraiment des paysages très différents que celle du début, qui était beaucoup plus effrayante, etc.
Il
et ça, j'ai trouvé ça,
ça
super cool dans ce jeu. Alors que bon, en termes de diversité de faune, on n'était pas sur quelque chose de fou, mais sur la flore, j'avais trouvé ça super sympa en termes de paysage. Dans Dragon's Dogma, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est qu'ils avaient réussi à donner plusieurs ambiances en fonction de zones dans lesquelles tu arrives. Et il y a notamment cette forêt à peu près au deuxième quart du jeu où vraiment tu as une ambiance qui est assez particulière. On est sorti de quelque chose qui était assez refermé et angoissant. On arrive sur quelque chose où il y a la lumière qui passe à travers le feuillage et qui est vraiment sympathique.
Eh ben, écoutez, moi je pense qu'on va revenir un peu en chat. Il y a eu énormément de réactions. C'est assez rigolo parce que je trouve que c'est un sujet. Je sais plus qui a dit. Il y a quelqu'un qui a dit voilà, c'est Damien qui disait moi dans Valheim je pleurais à chaque arbre coupé.
Oui.
Voilà. On parlait de ça pendant la coupure aussi, le fait que la nature est souvent une ressource en fait. On est là pour l'exploiter. Il y a une logique très capitaliste dans le jeu vidéo, notamment les city builders. Et donc moi je trouve ça cool qu'on s'attarde aussi dans Red Dead Redemption sur les champs de violettes et autres. Mm.
Et c'est vrai qu'on sort, on sort, mais t'as raison en fait. C'est vrai que jusqu'à maintenant, les arbres, ils servaient de ressources pour les bûcherons, pour construire des maisons. Je m'étais pas fait la remarque, mais c'est vrai que c'est assez récent le fait qu'on regarde les arbres à la place de les couper. Il y a la nature aussi dans Ghost of Tsushima.
Ça te bloquait le chemin aussi. C'était soit une manière de délimiter en fait ton trajet, soit une manière de te faire construire des choses, quoi.
Calisus M qui dit ma première vraie forêt dans le jeu vidéo, c'était dans Shadow of the Colossus. Ouais. Et donc, mais non, mais c'est les... on a les maisons en bois reviennent à la mode. Mais ça, je crois que c'est hors sujet. Mais c'est... ou peut-être pas, je ne sais pas. Ou alors Lord of the Ring Interplay de 1990, mais c'était de l'isométrique. Mais oui, oui, c'est le carnage dans les maps de Warcraft 1, 2, 3, ça faisait peur. Mais c'est vrai, on pouvait avoir des remords. Mais donc voilà.
C'est intéressant ce que dit Gégrolier sur Pokémon, parce que c'est vrai qu'à l'origine, c'était vraiment le créateur qui déplorait le fait que les insectes disparaissent chez lui. Alors je sais plus s'il était à Tokyo ou en tout cas en bordure de Tokyo, et s'était dit ouais, enfin les Pokémon c'est ça hein, quelque part, hein, c'est de la collection d'insectes.
Ouais.
Ah oui, j'ai des beaux souvenirs des forêts de Pokémon aussi.
Eh ben écoutez, moi déjà je suis ravi d'avoir parlé de forêts et de plantes dans Gâchette Gauche. Je trouve que ça a totalement sa place. Et donc on va passer sans transition au deuxième sujet. Hop, normalement je vais m'y retrouver dans les boutons. On sera peut-être amené à en reparler. Alors c'est où ? C'est là. On revient et on va passer au deuxième sujet. C'est un article qui vient de sortir tout juste là aujourd'hui, Pierre. C'est en gros, j'ai résumé ça dans le titre qui est là. C'est l'IA, c'était mieux avant. C'est que on parle. D'ailleurs, c'était le que ce soit au CES il y a quelques semaines ou à la GDC. Je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 10 jours, il y a eu des démos. La première fois c'était Nvidia, la deuxième fois c'était Ubisoft qui ont fait des démos de petits personnages secondaires nourris à l'IA générative avec qui il faut parler et qui peuvent improviser des choses. Mais du coup, c'est peut-être ça qui t'a donné l'idée de t'intéresser aux autres IA. C'est ça ?
Exactement. Il y a eu deux causes principales. Donc il y a eu mon test de NVIDIA ACE en janvier, après le CES, donc j'ai essayé, c'est un prototype. J'ai fait complètement dérailler le truc en passant de l'anglais au français sans faire attention. Voilà, il y avait des choses qui étaient pertinentes, d'autres beaucoup moins, et ça rappelle bien que c'est un prototype. Donc il y a eu NeoMPC qui est arrivé au moment où je faisais mes interviews. Voilà, mais évidemment, la GDC, il y a eu énormément de discussions sur l'IA. Moi, j'ai discuté avec un consultant, ancien chercheur et personne qui anime la chaîne AI and Games, donc Tommy Thompson, qui est hyper intéressant, qui était en charge en fait de gérer les invités pour la GDC, qui m'a dit qu'il n'a jamais vu une telle effervescence autour de l'IA et en même temps, jamais vu autant de développeurs spécialistes de l'IA qui disaient aussi attention quoi.
Ouais.
Genre, c'est-à-dire que ils disent « Ok, vous nous vendez des super démos, mais derrière, nous, il y a des choses qu'on fait leurs preuves et qui sont l'IA à 100%, enfin 99% de l'IA faite aujourd'hui se fait comme ça. » Donc, voilà, moi, c'était un truc qui m'intéressait. Et le deuxième facteur, désolé, je digresse un peu, le deuxième facteur, c'était la sortie de Dragon's Dogma parce que c'est un jeu à PNJ.
Ouais.
Clairement, voilà, il y a l'idée des pions qu'on connaît, mais c'est aussi un peu des mondes où des différents systèmes interagissent et créent des réactions en chaîne. Et donc, c'était l'occasion de publier cet article qui propose, entre guillemets, de revenir en arrière sur le passé de l'IA dans le jeu vidéo. D'où ça vient, à quoi ça sert et où est-ce qu'on en est. Parce que je trouve ça bien intéressant qu'on nous montre des prototypes qui ne fonctionnent pas encore et qui ne sont pas dans des jeux. Mais aussi, il faut se dire, mais c'est quoi l'IA ? À quoi elle sert aujourd'hui ? Et en quoi elle fonctionne bien, quoi ? Quels sont les grands jalons ?
Et tu remontes jusqu'à Pac-Man.
Exactement. C'est pas le premier jeu à faire venir l'IA, mais c'est un jeu qui a raffiné un modèle mathématique, donc de l'automate fini. C'est-à-dire que, voilà, c'est un modèle d'IA qui fait que quand on va manger le bonus, bah, ils vont avoir peur parce qu'ils savent qu'ils peuvent être mangés. Et donc, en fonction de nos actions et de laps de temps déterminés, les fantômes de Pac-Man ont des réactions. Et quand le jeu sort, en fait, c'est révolutionnaire. Mais il y a bien sûr des joueurs un peu malins qui ont tout de suite compris comment fonctionnait le jeu et qui vont proposer des guides. Et ce que j'aimais bien, c'était le passage à Mrs. Pac-Man, donc, qui est développé pas par Namco, mais par des Américains, qui, eux, au contraire, vont redonner un côté aléatoire au fonctionnement des fantômes. Et pour moi, ce moment-là, ce moment où il y a un passage, ce que mon chercheur, donc Tommy Thompson, dit que c'est un passage d'un problème déterministe à un problème non déterministe, et pour moi, ça, c'est un vrai moment charnière de l'IA.
Mm-hmm.
Et donc, partant de ça aussi, de raconter un peu les grandes évolutions. Donc, l'une des intéressantes, c'est les arbres d'état, de comportement plutôt, on va dire. Je ne sais pas si vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais la différence entre un automate fini et un arbre de comportement, et là, c'est très grossier ce que je résume, hein, mais c'est que l'arbre, c'est une arborescence, donc on ne revient jamais à la racine. Donc c'est un peu le principe, les personnages évoluent, et donc quand on perturbe un garde qui fait sa ronde dans GoldenEye, il va revenir à son côté imperturbable à un moment, oui. Parce qu'il ne respecte pas ce fonctionnement-là. Donc voilà, comprendre un petit peu les évolutions. J'évoque un peu aussi le directeur, le réalisateur de Left 4 Dead, qui a vraiment un peu marqué les esprits, c'est-à-dire une IA qui est pensée comme un metteur en scène et qui va faire apparaître les zombies à des endroits aléatoires, mais aussi en nombre différent en fonction de votre niveau et vos compétences. Donc ça, c'est très, très intéressant, en fait, de soulever le capot des jeux vidéo pour parler d'un domaine que, quand on est joueur ou même journaliste jeux vidéo, en fait, on connaît mal, quoi. On l'appréhende assez mal, et ça, il faut discuter avec les équipes pour voir un petit peu ces micro-évolutions qui font que les jeux sont de plus en plus imprévisibles, mais aussi il y a une mise en scène, en fait, il y a une dramatisation de l'IA qui est hyper importante pour l'expérience du joueur. Et ça, par exemple, on peut le ressentir dans Alien Isolation, qui n'est pas une révolution en termes d'IA, parce que ça combine un arbre de comportement et un AI director, donc un réalisateur. Mmh. Ça en combine deux choses, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est la dramatisation du jeu, de l'IA, qui va le rendre aussi génial.
Alors, pas révolutionnaire, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, ça reste un des ennemis dépendants d'une IA les plus réussis, franchement, de ces dernières années. Enfin, c'est un peu l'exemple qui, moi, me vient spontanément en tête quand on me parle d'IA dans des jeux vidéo. C'était celui-ci ou Mr. X dans Resident Evil, quoi. Enfin...
Moi, le premier qui m'a marqué, c'était, et qui a marqué pas mal de monde à l'époque, c'est en 2005. Je sais pas si vous vous rappelez de Façade, où c'était un jeu, en fait, où on allait rendre visite à un couple d'amis. Je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est genre Chad et je sais pas trop quoi. Ouais. Et c'était des interactions textuelles, en fait. Et il y avait... Après, c'était une IA fabriquée. Hein, donc, il reconnaissait un mot et il essayait d'avoir une réponse plus ou moins. Et tu pouvais faire évoluer la situation, avouer à l'un qu'il avait été adultère ou ce genre de choses. Et en fait, ce qui m'étonne un peu, c'est que c'est un jeu qui est sorti en 2005 et qui avait eu énormément de succès plus tard, au début des années 2010, chez les youtubeurs, en fait, qui l'avaient remis un peu au goût du jour. Ils étaient tombés dessus, ils avaient dit « Tiens, mais c'est fou ce truc-là, on peut avoir une interaction textuelle avec tout ça. » Et on voit bien que du coup, de 2005 à 2000, je sais pas, quand c'était 2012 ou ce genre de choses, il y avait surtout ce qui est, en tout cas, interaction textuelle. Donc, toi, t'écrivais et lui, il te répondait à l'oral. Et ben, il n'y avait pas eu trop d'évolution sur ce laps de temps-là, parce que ben, on était toujours un peu choqués, en fait, et étonnés de voir ce genre de possibilités.
Il y a un truc dans ton papier, Pierre, que je trouve assez central, en fait. Pour parler, finalement, sans les opposer forcément, parce que c'est vrai ce que tu as dit aussi, c'est que les IA génératives, on ne sait pas ce que ça donne, vu que ce n'est pas fonctionnel, vu qu'il n'y en a pas qui sont implémentés réellement dans les jeux vidéo, sauf une expérimentation côté Square, mais peu importe ce qu'il arrive, c'est toujours cool et inattendu, mais jamais chaotique. Je ne sais pas qui dit ça, c'est une citation qui a dans ton papier. Mais en fait, je trouve ça vachement intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une IA, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire en fonction des interactions avec le joueur et tout ça, mais il ne faut pas que ce soit chaotique. Or, on sait que les IA génératives aujourd'hui, bah, elles vont là où elles veulent, en fait. Donc forcément, ça génère du chaos. Mais en fait, ça ne génère pas forcément du cool et ça ne génère pas forcément du vrai inattendu, en fait. C'est-à-dire que le cool et l'inattendu sont des choses qui doivent être peut-être pensées à l'origine, dans des arbres de comportement, des choses comme ça, pour générer quelque chose qui peut être épique, qui peut être marrant, qui peut être inattendu pour le coup, mais que c'est pas forcément du génératif. Ça peut être prévu aussi.
Exactement. Ça, donc, c'est Hideaki Itsuno, le réalisateur de Dragon's Dogma, qui m'a dit ça, à qui je n'ai parlé que d'IA et de PNJ. Et c'était très, très intéressant, parce que pour lui, il se voit vraiment comme un réalisateur, mais un peu au sens cinématographique, c'est-à-dire que il y a une volonté d'emmener quelque part le joueur. Et donc, cette part d'aléatoire, elle est maîtrisée, alors que dans l'IA générative, on part un peu dans n'importe quoi. Et, enfin, dans n'importe quoi. L'IA génératrice peut, générative peut aussi halluciner. Enfin, c'est difficile de la brider. Et donc, c'était vraiment très intéressant qu'il me raconte ça. Et il décryptait un peu comment ça marchait bien dans GTA V. Voilà, ça crée... ils disent GTA V, c'est un jeu bourré de possibilités, mais tout ce qu'on va faire sera toujours intriguant, inattendu, et les systèmes vont réagir entre eux, et ça l'a beaucoup inspiré pour Dragon's Dogma 2. Mais il m'a aussi dit un truc que j'ai pas mis dans le papier, parce que j'avais pas de place. La version initiale était 12 000 scenes, ce qui est encore un tiers de plus, ce qui était beaucoup trop, et j'ai un peu réduit la voilure. Mais il me disait aussi que l'un des trucs qu'il avait le plus bluffé sur l'IA il y a quelques années, c'était un jeu de course de chevaux, qui est même pas sorti en Europe. Il s'appelle Derby Stallion. Et il m'a dit, en fait, ce qui l'impressionne et ce qu'il aime dans le game design aujourd'hui, même s'il a fait un jeu avec un gros budget, c'est en absence de moyens, en fait, quand on a un nombre limité de données, qu'on puisse en faire le maximum et donner le sentiment, il me disait, d'une intelligence harmonieuse. D'avoir ce côté harmonieux que quand tu as un minimum de données, voilà, des PNJ qui ont des objectifs... qui tout d'un coup sont perturbés par toi et tes compagnons, voir comment ils réagissent et que ce soit crédible, que ça donne l'impression d'un monde avec sa propre autonomie. Et en comparaison, on voit bien qu'avec l'IA générative, bah, ça va être dur de canaliser tout ça et c'est tous les enjeux de cette techno-là, quoi.
Dans Dragon's Dogma 2, toi, c'est Héloïse, parce que tu as quand même passé plein de temps là-dessus. C'est vrai que le fait de voir ces personnages, bon, alors, il y a les pions d'une part qui nous parlent de trucs, qui nous envoient vers des quêtes. Ouais, j'ai déjà fait ça. Alors qu'en gros, il a déjà fait ça avec un autre joueur ou une autre joueuse, enfin, et ce genre de choses. Oui, je connais ce truc parce que je l'ai déjà fait. Enfin, il y a des choses bizarres. Mais c'est quelque chose pour toi qui était important, cette espèce d'IA écrite. Enfin, je sais pas comment la décrire en fait, mais.
En fait, ce qui est marrant avec Dragon's Dogma, c'est que c'est un concept, celui d'avoir des IA qui t'accompagnent comme ça pour te battre, et c'est un concept qui est au centre du jeu, qui est même au centre du lore, qui est au centre de tout en fait. Et en fait, le truc, c'est que c'est pas tant... les pions vont créer, mais comme tu peux avoir des PNJ de base, en fait, qui vont créer, du coup, de l'inattendu, etc. Mais c'est surtout l'environnement, en fait, dans Dragon's Dogma qui va te créer des situations que t'attendais pas. Des situations qui me semblent quand même un peu chaotiques certaines fois. Oui. C'est pour ça, quand j'ai lu « pas chaotique », je me suis dit « ça dépend ». Mais qui vont créer en fait ce genre d'environnement. C'est plutôt la rencontre en fait avec des pions qui savent ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire qu'on leur donne des caractéristiques, un comportement en fait. Quand tu crées un pion, tu peux choisir entre franche, posée, bienveillante, etc. Et ça va être des manières à la fois de te guider dans l'environnement, mais aussi de te battre. Et c'est face en fait à d'autres éléments qui sont un peu plus inattendus, qui sont juste les monstres que tu vas croiser et surtout l'endroit où va se trouver ces monstres-là, qui vont créer en fait l'histoire. Et l'inattendu, etc. Et les monstres, ils sont posés à des endroits un peu étonnants, mais la plupart du temps, ils sont posés à des endroits pour t'aider à créer ce genre d'histoire, grâce à leur comportement qui est assez inattendu aussi.
C'est d'IA, du coup, les monstres, en fait, les ennemis sont eux-mêmes gérés par des IA particulières.
Ouais, et ça crée ce genre de choses.
Et du coup, par curiosité, justement, avec ton papier revient, hein, on revient de Pac-Man à Dragon's Dogma, donc sur les IA, tu parlais tout à l'heure finalement des IA aussi prévisibles et imprévisibles, qui ont chacune leur intérêt. Enfin, c'est vrai que dans les jeux d'infiltration, avoir des IA prévisibles pour les gardes, ça aide à avancer, parce que s'ils n'étaient pas prévisibles, comment est-ce qu'on ferait pour les passer, pour calculer des timings? Parce que ça crée du jeu aussi. Les IA prévisibles créent du jeu. Mais comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que ça vous intéresse? C'est une question ouverte pour le coup, mais ces projets d'IA générative, de dialoguer de manière totalement imprévisible, et tout ça, vous pensez qu'il y a des choses qui vont en ressortir? Il y aura des choses qui vont en ressortir, mais est-ce que c'est quelque chose qui titille votre curiosité là-dessus?
Alors, il y a des discussions, il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui aimeraient dans le prochain jeu de simulation de vie, le prochain gros jeu de simulation de vie qui va sortir cette année, c'est celui de Paradox qui s'appelle Life by You, Et ils ont créé une sorte de système pour le langage, en fait, où tu vas pouvoir entrer des textes pour qu'ils puissent discuter de ce genre de choses, etc. On ne sait pas trop encore quelle forme ça va prendre, mais il y a certains joueurs et joueuses qui disent « mais ce serait trop bien qu'on puisse juste brancher ChatGPT dessus, et puis ça crée une conversation comme ça qui serait plus inattendue, en fait ». Après, est-ce que c'est... Je pense pas qu'on puisse faire ce genre de choses, tout simplement parce que on sait que ChatGPT, c'est pas forcément le plus fiable. Et le fait d'avoir parfois des trucs qui peuvent déraper dans ton jeu, en termes de responsabilité, je pense que ça va pas être envisageable. Et est-ce que actuellement il y a des studios qui se penchent probablement sur du coup des... pour créer leur propre moteur, t'en as parlé du coup Pierre, mais ce sera toujours des intelligences artificielles qui seront sujettes à certains biais, etc. Et donc qui vont être modifiables au fur et à mesure, pas forcément par des personnes qui ont des bonnes intentions. Donc il y a un petit côté, j'imagine qu'on va pouvoir, j'y connais rien, mais cadrer ça, etc. Mais moi c'est plus quelque chose qui me fait peur à l'heure actuelle que quelque chose que je trouve juste positif pour le futur du jeu vidéo, quoi.
Là, c'est vrai que ça paraît difficile au vu de l'état actuel de ChatGPT de s'imaginer pouvoir avoir une conversation qui est réellement surprenante et inattendue et pas problématique du tout, ou en tout cas, on n'a pas l'impression, en tout cas, que notre interlocuteur en jeu va oublier la moitié de ce qu'on a dit auparavant, quoi. Enfin, donc là, oui, j'ai du mal à imaginer, en tout cas, une implémentation directe qui serait heureuse. Après, faut vraiment voir comment ça va évoluer. Mais pareil qu'Éloïse, je préfère mettre aussi une limite sur le fait que j'ai pas du tout d'expertise dans le sujet. Je constate juste pour rapport à ce que j'ai ChatGPT actuellement, quoi.
Pierre, toi, c'est un truc qui t'intéresse ou pas?
Je vais pas remettre une pièce dans la machine, Erwan. On sait très
moi, je ne dis rien.
Moi, je trouve ça intéressant qu'on parle de prototype de R&D, hein, parce que dans le jeu vidéo, c'est quelque chose d'important. La recherche et le développement, c'est bien. Mais il faut se dire aussi que la technologie n'est pas là pour faire fonctionner les jeux. Mettre un LLM dans un jeu, et c'est une des citations de fin de mon papier, c'est comme utiliser un tractopelle pour pêcher son jardin dans la plupart des cas.
Oui, j'avais bien aimé cette citation. Ouais.
Et en fait, voilà, ce qui est intéressant de voir, c'est que Neo NPC d'Ubisoft, par exemple, on les bride. C'est vraiment montrer comment on bride à LLM. Mm. Mais aussi, c'est voir la ressource que ça demande en matériel. Ouais. La démo que j'ai fait de NVIDIA, ils mettaient des serveurs en place et tout. Ça turbine. Et quand tu me parles de Live by You, je suis intéressé parce que la première démo que j'ai fait du jeu n'était pas du tout fonctionnelle. Et je pense que ce jeu est aussi très bien fait pour intégrer ce genre de technologie parce qu'il est complètement, il sera complètement modable de ouf. Il est fait pour ça. Mais par contre, je veux voir comment ça tourne, sur quels ordinateurs ça tourne.
Ouais.
Y a des gens hyper brillants qui vont réussir à faire tourner là-dessus entre un jeu et une IA générative. Mais pour l'instant, on n'a pas de carte graphique puissent faire ça correctement sur un ordinateur classique, quoi, ou même sur des consoles. Je serais curieux de voir la technologie que ça demande, si c'est possible.
Ouais.
Ouais. C'est pour ça que je disais normalement cette année. C'est-à-dire que la sortie en Early Access a été repoussée. Ça aurait dû être en fin d'année dernière, je crois, à un moment, puis en début d'année, puis repoussée. Et donc, pour le moment, c'est pas prêt. C'est juste pas prêt.
Et moi, juste parenthèse de cap. Peut-être rien à voir, mais peut-être un peu quand même. C'est que moi, quand j'ai essayé Live by You à Cologne, il y avait un truc que j'ai trouvé. En fait, j'avais envie qu'il parle Simlish à la fin, quoi. En fait, je trouvais ça absurde. En fait, cette idée dans un simulateur comme ça, d'avoir des vraies phrases, des vrais échanges qui vont nécessiter des arcs narratifs pour tous les persos et qui seront pas intéressants, parce qu'ils peuvent pas, surtout en termes de rejouabilité, ils peuvent pas garder les arcs narratifs entre les personnages intéressants à la 50e partie. Les arcs narratifs, imagine les Sims 4, ils auraient fait ça. Je sais même pas, il est sorti il y a combien? Il y a 15 ans, Sims 4, ou 10 ans, je sais plus. Mais
il y a 10 ans, ouais.
Tu relances Sims 4 aujourd'hui, tu aurais déjà vu tous les arcs narratifs 8 fois. Enfin, tu pourrais même plus relancer une partie, parce que ce serait horrible de voir ces personnages se refaire les répliques et se refaire les dramas qu'ils ont déjà vécu des milliards de fois. Et je trouvais que dans Live by You, c'était un truc qui était stressant. Moi, je voulais qu'ils parlent en Simlish à la fin, parce que les voir échanger des vraies phrases, ça m'angoissait, mais à un degré incroyable.
Mais en plus, ce qui assez étonnant, c'est que pour le coup, Paradox, du coup, c'est Tectonic, je crois que ça s'appelle le studio. Ils sont allés chercher un monsieur qui a bossé sur les Sims 2, notamment, qui était une personne assez importante sur ça, qui s'appelle Rod Humble, Rod Humble, et qui était connu justement pour avoir apporté ce côté un peu goofy aux Sims, où c'était drôle, etc. Et là, on part sur quelque chose qui est plus une démonstration technologique et de pouvoir tout mettre, en fait, dans une simulation de vie, de pouvoir tout faire, etc. Et c'est vrai que ça m'avait vachement étonné cette direction qu'avait pris le jeu. Mais,
j'ai l'impression... Pardon.
Non, vas-y, j'ai fini.
Non, j'allais dire, j'ai l'impression ouais, que c'est aussi ce que tente de faire Inzoï. Bah, pareil, un autre Sims-like, mais que ouais, Life by You et Inzoï ont un peu ce côté à vouloir se démarquer des Sims. Bon, bah, d'une part, par les possibilités, enfin, la progression des technologies fait qu'on a quelque chose de plus réaliste, etc. Mais c'est vrai que, comme Erwan, moi, je peux pas m'empêcher d'avoir une sorte d'attente sur le Simlish. C'est marrant parce qu'à la base, c'était quand même un truc qui était censé. Il y avait un frein technique à l'époque, c'est que en gros s'il y avait pas de Simlish, les personnages allaient répéter inlassablement la même phrase et ça allait vite devenir insupportable pour tout le monde. Il me semble que c'était aussi une contrainte par rapport à la localisation. Le Simlish, au moins t'as pas à le traduire, tu peux sortir ton jeu et toucher un public. Mais là aujourd'hui, ouais, je serais vraiment curieuse de voir ce que ça pourrait donner, parce que est-ce qu'on en est à un stade où on pourrait avoir des Sims, enfin j'en peux le terme Sims, mais des Sims qui peuvent avoir des conversations qui nous paraissent réalistes et pas répétitives et qui te lassent pas au bout d'une heure, ou est-ce que on est encore à une phase où le Simlish aurait été préférable, je sais pas encore.
On n'aurait pas de reprise en Simlish de Katy Perry en plus.
Oui, en plus Lily Allen aussi, non, il y a pas Lily Allen,
Lily Allen, je crois aussi, elle.
Et ça, c'est dommage.
Ouais, mais ils vont se baser sur la communauté qui va proposer des persos, c'est sûr. Un peu de fanfiction à mort, quoi.
Mais ce qui existe aussi dans les Sims, c'est-à-dire qu'il y avait plein de choses qui manquaient à la sortie, donc il y a eu plein d'extensions assez coûteuses qui ont été balancées, mais aussi, on parlait du coup du fait d'avoir des IA qui soient crédibles, etc., et des PNJ crédibles. Dans les Sims, c'est arrivé au fur et à mesure. Là, c'est assez récemment qu'on a pu avoir des évolutions par exemple, enfin, voilà, on a plein de foyers dans les Sims et on lance un foyer, et en fait, tout autour, la vie des autres Sims, à part le vieillissement, était assez statique, en fait. Et ça, c'est assez récemment, c'était d'abord par des mods et ensuite dans le jeu que ça a été apporté au fur et à mesure pour qu'ils puissent, je sais pas, changer de taf, avoir des enfants, changer de partenaire, etc., sans que ce soit un problème. Donc ouais, je pense que ça va, en fait, ça va surtout jouer sur là dans les années à venir sur les jeux de simulation de vie, et j'ai hâte de voir comment ça va se faire.
On va voir les IA pour boucler. Désolé. Ouais.
Vas-y.
J'en parle. Les Sims, m'a dit un des spécialistes, c'est un modèle d'IA hyper intéressant qui s'appelle le BDI, donc c'est croyance, désir, intention, belief, desire, intention. Et qu'en fait, il a fallu vraiment avoir une IA très perfectionnée pour que les Sims te disent pas, te harcèlent pas en fait. C'est-à-dire qu'ils te disent pas, j'ai faim, j'ai envie d'aller dormir, je dois aller travailler et tout. Et c'est une IA qui est capable de prendre ces petites décisions pour te dire, là, ce que j'ai le plus envie, c'est de manger, tu dois me nourrir. Et donc, du coup, aussi, après, de s'adapter une fois qu'il a mangé, pas trop vite te dire, là, il faut me coucher et tout ça. Et on a l'impression que c'est tout bête, parce qu'on a grandi avec les Sims, je pense. Mais en fait, c'était un modèle hyper poussé. Et voilà, ça m'a donné envie de m'y intéresser à part entière.
Trop bien.
De l'IA, de l'IA, c'était mieux avant. C'était celle des Sims, c'était déjà assez impressionnant. Merci pour le deuxième sujet. Donc, on va faire la section habituelle de milieu d'émission qui s'appelle Au sommaire, et on va regarder un peu déjà pour commencer, qui se passe du côté des gens qui ne sont pas là, qui ne sont pas autour de cette table virtuelle. On va commencer avec JV. J'ai hâte d'entendre Kevin sur ce sujet. J'ai poussé pour que le sujet soit au programme du prochain Gâchette Gauche. Le jeu vidéo a-t-il du mal à faire rire? Rien que ça, je pense que j'ai hâte d'en parler. En tout cas, ça, c'est le gros sujet du dernier JV le mag. Côté jeux vidéo magazine, Elden Ring, Shadow of the Erdtree, tu te prépares, toi aussi, Julie, je crois, à repartir.
Je compte les jours, ouais.
C'est horrible, hein, c'est horrible.
Mais en plus, ça coïncide, c'est le moment où il va faire super beau, ce sera le début de l'été, et je vais m'enfermer dans une cave. Mais bon, je ne regretterai rien.
Ah, il y a Kevin qui est là. Tu es prêt, hein, Lisa, qui est dans le coin. J'espère que tu es prêt à parler de ce sujet au prochain gâchis ou un autre. De toute façon, vous avez toujours des sujets à JV. Donc, c'est pas ça qui manque par chez vous. Jeux vidéo magazine. Donc, Shadow of the Earth Tree pour. Je sais même pas si celui-là, je le prononce. On le prononce comment? Earth Tree? Je sais pas. J'en sais rien.
Aidez-nous.
Je sais pas, on va abandonner. Côté Canard PC, allons faire un tour du côté de Canard PC. Le nouvel âge du jeu de rôle Citizen Sleeper 2, Baldur's Gate 3, Dragon's Dogma 2. Comment les RPG prennent de l'XP? C'est le gros sujet de Canard PC, chère rédactrice en chef.
Oui, gros sujet qui a été mené de front par Isual, qui est notre grand expert jeu de rôle, et qui du coup a pris un peu le temps de parler des jeux de rôle qui l'attendaient pour cette année, mais aussi les années à venir, et parler en fait de comment Baldur's Gate 3 a créé une sorte de... Comment dire a permis beaucoup de choses, en fait. Je résume très bien, c'est pour ça que je m'étais dit je ne mets pas le sujet visuel en avant, je vais faire un sujet que j'ai écrit. Non, mais c'est un sujet absolument passionnant. Il y a plein de trucs dans ce numéro qu'on n'a pas pu tout caser en couverture, mais on a un article sur l'avant-garde queer dans le jeu vidéo. Qui part d'un bouquin passionnant de Bonnie Rudberg. On a toutes sortes de tests.
Pourquoi les AAA se lancent dans le trafic de drogue?
Oui, alors celui-là, on a réussi à le caser en couverture, je crois. Ouais.
Oui.
C'est notre cher Kokobé, que les auditeurs de Silence en Joue connaissent bien, qui explique pourquoi tous les AAA se mettent à implémenter des modes roguelike dans leur jeu. Mm-hmm. Ce qui leur permet un peu de se faire une petite cure de jouvence à moindre frais. Quitte parfois à aller à l'encontre de la philosophie du jeu original, comme ça a été le cas pour The Last of Us, mais en tout cas, ouais, c'est... Mais... Ouais.
L'actualité aussi, côté Canard PC, parce qu'il y a une actualité,
oui.
il y a un financement participatif. En ce moment même, il reste 25 jours.
En ce moment même.
Vous êtes avril,
ouais,
et c'est en train de passer les paliers les uns après les autres, et donc c'est le grand hors-série, parce que vous avez fêté vos 20 ans, il y a même eu une couve en novembre 2023, donc c'était officiellement, mais vous avez un peu tardé quand même, il fallait quand même le faire.
On a complètement tardé.
On est d'accord.
C'était dans l'idée, mais après effectivement on s'était dit, il y avait eu un hors-série déjà pour les 15 ans, mais on s'est dit faire un numéro spécial dédié aux 20 ans, ça pouvait peut-être impliquer une forme de redite si on ne pouvait pas se cantonner exactement au même format qu'on avait fait pour les 15 ans. Donc on avait vraiment fait un cahier de couverture sur les 20 ans, on revenait sur certains aspects de l'histoire du magazine, mais là c'est vraiment un album dédié qui en plus a été rédigé par Sonia, notre secrétaire de rédaction, qui est là depuis les tout débuts de Canard PC, qui travaillait déjà à Joystick et qui connaît vraiment toutes les anecdotes possibles et imaginables sur la rédaction. Et je suis très contente que cet album voit le jour, parce que au début donc on avait mis un premier palier en se disant bon, si on arrive à avoir les objectifs, on rajoutera des rabats, et après c'est Yvan qui s'est trouvé très vite en kikiné, parce qu'il était là mais qu'est-ce que je mets en stretch goal suivant, donc mais
en tout cas n'hésitez pas, ça enchaîne les stretch goals pour l'instant,
ça fait hyper plaisir. Viendra le moment où on saura pas quoi faire à part livrer un bouquin en or massif, mais en tout cas, ouais, on est hyper contents de la tournure que prend cette campagne et de l'engouement des gens autour de ça. Ouais.
Vous en êtes à 2195 précommandes. Je vais même mettre un lien dans le chat vers le Ulule. C'est quoi le prochain stretch goal? Parce que là, c'est le grammage du papier intérieur. On en est là.
Attention.
C'est...
du papier plus épais et une couverture plus rigide. Mais en vrai, c'est cool.
C'est ça. Donc voilà, l'album anniversaire. Il reste 24 jours. 24 jours pour contribuer. C'est sur Ulule. On passe du côté de par chez vous. Chère Héloïse, Origami, oui. Avec l'hebdo toujours en cours, évidemment, le dernier, Dragon's Dogma 2 Princess Peach. Donc ça, c'est toutes les semaines. Donc voilà, ça tient bien la route.
On arrive à le faire toutes les semaines, donc c'est déjà ça.
C'est déjà pas mal. Et en plus...
Ouais. Dis-moi.
Non, vous faites... en plus, il y a plein d'autres programmes. Il y a Super Vieux Jeu, il y a le... comment ça s'appelle sur...
Wishlist.
Wishlist, voilà, oui, c'est ça. Et donc, Internet Explorer, dont je ne dirai jamais assez de bien. Donc, dernier épisode avec Daisy le tourneur. Comment ça se passe? Pourquoi est-ce que vous avez lancé Internet Explorer?
En fait, moi, j'avais une petite frustration en travaillant. Tu sais que je viens d'une formation généraliste. Mmh. Et en me spécialisant dans le jeu vidéo, plein de fois chez JV, j'étais en mode, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir parler de ce sujet? Et je trouvais des angles un peu détournés, tu vois. Juste, genre pour parler de TikTok, j'avais fait un truc sur les jeux vidéo qui font leur promo sur TikTok, etc. Bref, j'avais laissé vraiment cette envie et j'adorais, et j'adore toujours, le travail de Lucie. Et du coup, quand on a lancé Origami, on l'avait pas annoncé pendant la campagne, mais c'était déjà en train de... Dans nos envies, en fait. Il fallait juste qu'on se mette d'accord avec Lucie et voir si au niveau du budget c'était envisageable avec, et du coup Lucie est hyper partante et on s'est lancé du coup dans cette émission que j'adore, qui parle de culture numérique, de sujets de société autour de tout ça. Et du coup, toujours avec un sujet un peu sérieux et un sujet plus culture, etc. Donc là, le dernier, en effet, on a parlé de neutralité de Wikipédia. Est-ce que Wikipédia peut être neutre? Est-ce qu'on souhaite que Wikipédia soit neutre ou pas? Et on a parlé aussi de story time, donc de l'exercice, mais aussi de ce que ça raconte, en fait. Pourquoi est-ce que c'est détesté? Pourquoi est-ce qu'on en fait beaucoup? Quoi ça fait référence en littérature, en règle générale? Et de karaoké, parce qu'on a juste des robots sans écran après. Et qu'il faut parler de karaoké, quand même assez fréquemment.
Il faut parler de Shrek et de karaoké, hein, on est bien ouais, d'accord. Donc voilà, ça c'est tous les mois.
Tous les mois, on a en tout, du coup, on a quelques émissions mensuelles. On a deux hebdos, la mardinale de Gotos, donc qui parle d'actu, qui suit, c'était ce matin, tout simplement, qui suit l'actualité un peu plus en profondeur que ce qu'on peut faire dans l'hebdo. On a Super Vieux Jeux, qui parle de jeux rétro, Internet Explorers, Wishlist, du coup, qui parle de jeux indés et qui revient demain.
Ah oui, super. Dernier point, côté Origami, programme chargé pour le week-end prochain.
Tout à fait. Ce week-end, on participe à Furax. C'est un événement caritatif, pour le coup, un stream caritatif qui s'intéresse et qui va récolter des dons pour l'association féministe contre le cyberharcèlement. C'est organisé juste à côté de chez nous, donc on a dit peut-on participer et vous recevoir de temps en temps sur notre canapé. Donc c'est ce qui va se passer. Je travaille encore sur le programme, mais c'est bientôt prêt. Ça devrait sortir d'ici ce soir ou demain matin, dernier cara. Et puis du coup, c'est le samedi, on a prévu un gros programme avec Lucie. On va jouer évidemment, mais aussi recevoir pas mal de personnes, que ce soit des streamers, mais aussi d'autres profils. On va par exemple avoir Pauline Ferrari avec nous pour discuter de masculinisme sur Internet. Donc ça va être trop trop cool.
Ça va être un Internet Explorer de 8 heures, c'est ça,
hein? De plus. On prend l'antenne à 11 heures et on finit à minuit.
Ah ouais, yes, 11 heures d'Internet Explorer. Et écoute, on prend.
Je suis de la team JV, hein, les marathons, on connaît.
Tout va bien. ça c'est cool. Et un petit détour enfin par... la rubrique jeux vidéo pixel du monde. Comment ça va avec tous vos sujets, Pierre? Ça se passe bien?
Ça va bien, il y en avait beaucoup en ce moment, donc d'où la publication hier de mon article IA, et sinon on est allé faire un tour du côté de ces joueurs pro de Fortnite, Rocket League, qui n'ont pas été payés par...
Mais c'est fou cette histoire, j'ai découvert ce papier-là, mais c'est complètement dingue. Genre Epic, ils ne payent pas en fait.
Donc ils ont des retards de paiement,
ouais.
Et surtout... Ce qu'ils expliquent un peu, donc c'est mon collègue Aurélien Defer qui l'a écrit, donc je paraphrase ce qu'il a dit.
Oui.
Et il y a des retards de paiement et une impossibilité de joindre Epic qui est assez tragique pour ces joueurs, qui sont en plus généralement assez jeunes et qui se font déjà avoir par le système quand on leur promet de monts et merveilles quand ils gagnent des tournois de Fortnite et qu'en fait ils n'ont rien, ils ont l'impression de s'être fait complètement flouer. Donc on espère pour eux qui vont toucher un jour ces sommes.
D'accord. Écoute, en tout cas, grosse présence jeux vidéo toujours, hein, sur Pixel. Ça fonctionne. T'en avais parlé la première fois où t'étais venu en octobre ou novembre, je ne sais plus. Octobre. Mais toujours, hein, toujours plein de sujets cool. T'as des sujets sur lesquels tu travailles ou des choses...
Alors, dans l'embouteillage de sujets dont on parlait, ce soir, j'ai la test de Jeff Minter, l'Amasoft, The Jeff Minter Story, qui attendait un peu que je termine ce long papier IA qui m'a demandé deux fois plus de documentation que d'habitude. Technicité oblige. Donc, j'ai un petit sujet Jeff Minter qui arrive ce soir et c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé.
Oh, il est fou.
Un documentaire interactif, ou l'inverse, jeu vidéo documentaire. Voilà, j'avais beaucoup aimé Karateka, mais celui-là m'a beaucoup touché parce que je connaissais pas l'histoire en fait. Donc je fais un petit test sur ce sujet. Et Et en complément, voilà, on va parler de QSMP. Et il y a aussi un petit point QSMP qui a été fait par Aurélien dans la semaine.
Tout à fait, tout à fait. Peu de médias qui ont parlé de QSMP et on en a deux autour de cette table, comme c'est formidable. Pour terminer, cette rubrique au sommaire, comment soutenir la presse, JV Le Mag, c'est sur jvlemag.com, 64 € par an pour les abonnements. Il y a d'autres formules avec les livres édités par JV inclus dans l'offre. Jeux Vidéo Magazine, c'est 50 € par an sur jeuxvideomagazine.com. Sur canardpc.com, vous pouvez vous abonner à 49 € par an à la version numérique, parce qu'il y a tout le contenu de Canard PC qui est accessible là-bas, et 69 € par an si vous voulez couper des arbres aussi, mais le recevoir en mag papier. Et enfin, chez Origami, j'ai enfin pris le temps de copier-coller l'URL du Patreon que je n'avais jamais au moment de l'enregistrement, patreon.com/origamimedia, pour soutenir Origami, parce que Origami ne peut continuer que grâce à vos soutiens, 3, 7, 15, 30 et 100 € si vous voulez le statut de gros pigeon. moi je lis ce qui est marqué.
Ah oui, mais on assume, hein. On était un peu fatigués ce jour-là, mais ça nous a bien amusé de faire les...
Donc voilà, patreon.com/origamimedia Origami Media pour soutenir Origami. Et je termine quand même pour soutenir Silence on Joue, donc le podcast ici présent. C'est un abonnement de soutien à Libération pour 6 € par mois au lieu de 11,90 €. Ça, c'est sur offre.libération.fr/SOJ. Et j'ai oublié aussi que Pixel, de plus en plus, c'est des articles après paywall. Parce que fut une époque, Pixel était très, très article accès libre, mais j'ai remarqué que de plus en plus, les grands décryptages et tout ça, vous êtes derrière le paywall, et donc c'est abonnement à partir, je crois la dernière offre que j'ai vue c'était à partir de 5,90 €, mais ça doit être pour les premiers mois, mais c'est sur lemonde.fr évidemment, pour soutenir Pixel, vous pouvez vous abonner au Monde. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, Pierre, tu voulais ajouter?
Les tests de jeux vidéo sont gratuits, donc si vous voulez lire des critiques, allez-y. Voilà.
C'est ça. Et après, il y a des grands décryptages et les grandes enquêtes qui sont très logiquement, hein, d'ailleurs, parce que il faut payer les journalistes aussi. Hein, on est un peu là pour ça. Donc voilà, ça c'était pour la rubrique au sommaire. On va reprendre, bah justement, tu viens d'en parler, Pierre, avec un des sujets de ces dernières semaines, un des sujets qui était pas évident à traiter, parce que quand il a débarqué, on avait juste 4 lettres et il fallait déjà savoir comprendre de quoi on parlait. On n'est pas là, on est là. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié d'aller voir le chat après la, je m'embrouille après la rubrique IA. On n'a pas passé par le chat, mais c'est pas grave, on se rattrapera après. Bref, on vient avec QSMP. QSMP, qu'est-ce que déjà QSMP. Alors voilà, j'ai pas fini mon introduction, mais QSMP, moi j'ai commencé à le découvrir parce qu'il y a eu un communiqué du syndicat Solidaire qui a dit voilà, il se passe des choses sur QSMP. Il citait le nom d'un streamer mexicain que je n'avais jamais entendu parler, d'une problématique, d'un scandale, de gens bénévoles qui étaient pas bénévoles en vrai et qui ont été payés des clopinettes, voire qui n'ont jamais été payé du tout. Et en fait, le problème, c'est que je n'avais jamais entendu parler de QSMP, je ne savais pas ce qu'était QSMP, et rien que pour comprendre de quoi on parlait, c'était pas évident. Héloïse, t'en as fait un sujet sur la dernière hebdo d'Origami.
Ouais, j'en ai fait un petit sujet, justement parce que j'ai vu plein de personnes autour de moi qui étaient complètement perdues, en fait, et je me suis dit que c'était intéressant de soulever ce sujet, parce qu'il y a plein de domaines de flou, en fait. C'est-à-dire que, bon, pour reprendre du coup l'histoire, QSMP, c'est quoi ? C'est un serveur Minecraft de survie qui a été fondé par un streamer mexicain qui s'appelle Quackity et qui est extrêmement suivi. Donc, c'est 6,5 millions, je crois, de follow sur Twitch et YouTube. Et qui a eu l'idée, pour essayer de rendre un peu les streams et les communautés plus internationales, de créer un serveur où on aurait une traduction immédiate, en fait, de ce que disent les personnes à ce moment-là. Donc, sous la forme de petites bulles qui s'affichent, en fait, au-dessus. Et ça a immédiatement fonctionné. Ça a été lancé en mars 2023. En mai 2023, il y a des streamers français, 5 je crois, qui rejoignent le bateau. Et ça se fait souvent par vagues comme ça. Là, récemment, c'est des Allemands qui sont arrivés. Et c'est à la fois de la survie et à la fois, en fait, du roleplay. C'est exactement dans la veine. Et si vous ne connaissez pas trop QSMP, vous n'avez peut-être pas non plus suivi GTA RP, mais on va incarner des personnages, on crée des relations. Il y a des scénarios derrière qui sont écrits pour pouvoir relancer, en fait, les interactions, etc. Donc ça, c'est QSMP. Pourquoi est-ce qu'on en parle actuellement? C'est parce que c'était fin février, début mars, on a eu des révélations, des témoignages en fait de la part d'une personne, une Française qui s'appelle Léa sur Twitter, qui expliquait en fait tout simplement que elle avait vécu des situations de harcèlement et de chantage en fait en tant que bénévole pour tout ça. Donc en fait elle avait commencé tout simplement début mai 2023 en tant que fan en fait de l'initiative à être en charge des réseaux sociaux en français. Et ensuite, au fur et à mesure, le Quakiti Studio a rajouté des responsabilités jusqu'à arriver à des situations juste de burn-out, en fait, où elle dormait peu, etc. Et d'autres témoignages ont suivi ensuite en France. Là, je sais que Solidaire Informatique en avait reçu 3 au moment où ils ont écrit le communiqué. Et donc voilà. Et en fait, ça pose plein de questions, que ce soit en termes de rémunération, le travail gratuit sur Internet, c'est quelque chose qui est souvent considéré comme tel quel et qui est considéré comme normal, en fait, pour pouvoir faire évoluer une communauté. Mais jusqu'où ça va, en fait, ce bénévolat? Et à partir de quel moment t'as le droit de dire « Bon, bah maintenant, toi, tu fais ça parce que t'es bénévole. Et puis, si tu veux participer à la communauté, bah voilà, tu pars pas en vacances parce que bah, on a besoin de toi. Et si tu reviens, bah, tu n'auras plus de taf, quoi. Enfin, de taf. » Donc voilà, et vu qu'on en avait très peu parlé, je me suis basée sur le seul article qui avait été publié en français à ce moment-là, qui était l'article d'Artoise, Artillerie lourde sur les internets, qui avait été publié chez Combini. Et je me suis en fait un peu confrontée au fait que dans les rédactions françaises, c'est un peu compliqué actuellement d'aller trouver des personnes qui sont spécialisées dans ce genre de contenu, quoi.
Parce que là, on parle effectivement d'un serveur Minecraft multijoueur, sachant que même dans la galaxie Minecraft, qui est un puits sans fond d'usage, de façon de jouer, de façon de c'est-à-dire que t'as les serveurs Minecraft, par exemple, comme celui qui a essayé de lancer InoxTag il y a un peu plus d'un an et qui s'est gaufré, qui sont des serveurs payants pour les joueurs. Donc en fait, c'est qui est ouvert aux joueurs s'ils payent pour rejoindre une sorte de communauté avec des fonctionnalités, des choses différentes. Et on a ce type de serveur Minecraft comme QSMP qui sont non pas des serveurs payants, mais des serveurs à entrée limitée de roleplay. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'on parle d'un jeu. Autant on joue à plein de jeux. Là, on est sur un jeu qui a une existence monumentale et tout ça, mais sur un usage à l'intérieur d'un jeu qui, en plus, est lié à des communautés de streamers, parce que c'est ça aussi. C'est le RP, ça ne vaut par le stream. Enfin, ce que j'ai compris, je crois que j'ai à peu près compris, mais en fait, ce QSMP, il n'a pas d'intérêt dans le jeu lui-même. C'est dans la façon dont les streamers le mettent en scène, non?
Bah, si tu veux, c'est un peu comme si, tu sais, maintenant il y a l'actual play du RPG sur table qui est diffusé, qui est fait. Bah, c'est à peu près la même chose, mais dans un jeu, en fait, tout simplement. C'est faut le voir un peu de manière similaire, c'est-à-dire que toi, tu peux le faire aussi dans ton coin avec tes amis. Mais voilà, là, le fait que c'est juste parce que c'est ces streamers-là que aussi il y a énormément de personnes qui regardent, et c'est là qu'on trouve l'intérêt pour les spectateurs, évidemment, le fait d'avoir des gens qui vont juste créer des histoires, avoir des dans GTRP c'était totalement ça. Je sais plus si vous avez vu, il y avait des gens qui avaient codé des éléments pour que tu puisses voir toutes les personnes qui étaient connectées en même temps, et tu pouvais avoir genre des points de vue de plein de personnes différentes, et c'est assez passionnant, mais c'est compliqué à comprendre quand t'es pas dedans.
C'est vraiment peut-être sur, beaucoup de. Enfin, moi, je m'étais intéressée au RPG GTA, et c'est vrai que c'est tellement tentaculaire parce que oui, tu vas suivre. Bah, et c'est tout l'intérêt pour moi du RPG GTA en stream, c'est que tu peux suivre une histoire C'est comme si tu regardais une sitcom, mais en suivant le point de vue de 400 protagonistes en même temps. Enfin, et là, je parle que d'un c'est serveur ça. Du RPG GTA. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui m'avait frappé à l'époque, et j'imagine que c'est aussi le cas avec ce serveur aussi, c'est que au-delà enfin, de l'aspect bénévole qui deviennent des travailleurs enfin, vraiment non rémunérés, qui est complètement aberrant, mais il y avait quand même cette injonction un peu. Moi, j'étais au, enfin, j'en avais fait un petit peu sur le serveur Flashback, et il y avait quand même ce côté où pour intégrer le serveur, il fallait être présent un certain nombre d'heures, enfin en tout cas avoir joué un certain nombre d'heures, être un joueur de RP aguerri. Et en fait, même une fois sur place, même s'il n'y avait pas de, comment dire, de phrase officielle de type « bon bah vous devez être connecté de 8h à 18h parce qu'il faut que le serveur ait un petit peu de vie », mais il y avait quand même ce côté où les administrateurs, par exemple, pouvaient très bien aller voir quelqu'un qui n'avait pas streamé pendant un temps juste pour dire « bah voilà, est-ce que ça t'intéresse tout le temps ?» Enfin, toujours de faire partie de ce serveur, il y a quand même cette volonté de faire un monde persistant et du coup, ouais, de demander quelque chose, en tout cas des personnes qui font vivre ce serveur, quoi, que ce soit les bénévoles ou les streamers.
C'est une fiction où t'as pas de main sur les protagonistes, en fait. Donc, y a un truc un peu bizarre comme ça. Et de là, je vous parlais du coup de Léa, mais il y a également une autre administratrice et une administratrice qui s'appelait, qui incarnait en fait un personnage dans l'histoire. Dans le lore de QSMP, et qui était pas non plus payée pour ça. Et une fois qu'elle avait fini ça, il fallait qu'elle crée aussi le scénario derrière, qu'elle discute de tout ça. Ils avaient interdiction de discuter, selon leur dire, du coup, de discuter avec d'autres personnes qui participaient à tout ça. Donc, que ce soit dans une. Officiellement, pour éviter qu'il y ait des éléments de lore qui soient partagés, du coup, etc. Mais ils demandaient, du coup, montre-moi une capture de ta discussion avec telle personne, et puis comme ça, je saurai si tu mens ou pas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se posaient la question, oui, bah, c'est du bénévolat en fait, donc ils ont choisi, ils peuvent s'en aller. Mais il y avait quelque chose, une sorte, peut-être pas d'emprise, mais de situation un peu bizarre autour de tout ça. Et c'est justement sur ce flou-là que ça devient pour la journaliste quelque chose d'hyper intéressant en fait, de voir pour cette situation qui n'existait pas avant, en tout cas sur Internet, comment est-ce que tu fais pour mettre des limites, comment est-ce que ça va évoluer par la suite, est-ce que juste on va tourner la page et puis ça va continuer comme ça et il y aura une autre communauté plus tard qui va aussi se réveiller ou pas. Donc ouais, c'est là pour le coup je l'ai traité en tant que news, mais c'est vrai que faire un papier un peu plus long pour s'interroger sur toutes ces questions-là, ce serait quelque chose qui me plairait beaucoup.
Sachant que on l'a un peu évoqué, mais QSMP donc s'est lancé avec différentes communautés de pays. Donc pour chaque pays, c'est des streamers, streameuses qui viennent, qui parlent anglais, espagnol surtout au début, qui pouvaient communiquer avec les systèmes de traduction automatiques. Tu as cité la date tout à l'heure. C'était aux alentours de mi-mai, 25 mai ou je sais plus trop quoi, 2023. Il y a eu une grosse arrivée de Français. Alors une grosse arrivée, on parle de serveurs RP, c'est-à-dire qu'il y en a eu 6, je crois.
5 ou 6, je crois.
Avec quand même des Baguera Jones, Antoine Daniel, et Pierre, qui est un des plus gros streamers Minecraft en France. Donc voilà, avec qui arrive
et
chacun.
Et même Kameto à l'époque.
Et Kameto, mais oui, c'est vrai, qui n'est pas resté longtemps, mais qui...
Non, ouais. Parce que ça demande du temps aussi. Du coup, forcément, tu peux pas... Quand tu t'engages là-dedans, c'est un peu compliqué. Mais ouais, bah là, à l'heure actuelle, du coup, il n'y en a qu'un seul qui a continué en expliquant avoir confiance en Quackity pour que les choses changent, effectivement. Donc, c'est Pierre. Les autres ont arrêté pour le moment de streamer sur le serveur parce que, en attendant, en fait, juste d'avoir des réponses et des actes francs et fermes et définitifs pour améliorer les choses.
Sachant que on parle de, tu l'as évoqué, mais les bénévoles, enfin c'était des horaires de fou furieux. Ce que raconte Léa ou ce que raconte Pomme sur les réseaux sociaux, c'est c'est des dizaines, centaines d'heures par semaine passées.
C'est ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, même nous, chez Origami, tu vois. Faut que chacun des personnes qui ont des streams, qui font appel, ou juste acceptent, en fait, l'aide de bénévoles sur les modérations, en fait, soit restreindre, soit réussir à payer les personnes, etc. C'est quelque chose sur lequel on réfléchit pas mal chez Origami. En attendant d'être périn pour de sûr, pour être certain d'être périn, etc. Et de voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en place Et puis juste les questions de bénévolat, en fait, elles explosent un peu à partir du moment où ça se passe sur Internet,
ouais,
et que du coup toutes les lignes sont un peu floutées par rapport à tout ça. C'est-à-dire que certains tribunaux pensent en fait que juste la jurisprudence dit parfois que le bénévolat ça peut être qu'envers en fait des sociétés qui sont non lucratives, et du coup là on tombe dans quelque chose qui a rien à voir. D'autres que c'est juste quand il y a pas de rémunération, donc c'est pas exactement la même ouais. chose. Et du coup je pense que même au niveau du droit du travail, il y a des choses à faire évoluer juste pour que ça puisse entrer dans les... que ce soit plus clair, quoi. Au moins en France.
Non,
c'est super bien qu'on aborde ce type de sujet, parce que, enfin, tu l'as dit, en tout cas, nous, c'est pareil, on a des modérateurs, etc. Et faut se poser la question de, ouais, enfin, c'est censé être du bénévolat. Mais c'est vrai qu'on part du principe que ça a toujours été comme ça et que ça n'évoluera pas, mais non, justement, enfin, en tout cas, je pars personnellement du principe qu'on peut pas demander, en tout cas, à des bénévoles d'être présents de telle heure à telle heure.
Non, ouais. Tu veux dire, tu ne prends pas de vacances, sinon tu participes plus au projet.
Ouais, c'est dégueulasse, quoi.
Donc, a priori, Solidaire veut attaquer au prud'homme. Ça, c'est ce qu'ils ont dit à ma collègue Louise Mohamedi et Aurélien Defer qui ont fait notre article là-dessus. Donc, attaquer au prud'homme, donc une procédure en justice en France, ça permettrait d'avoir un retour de Quackity. Parce que pour le moment, il les snob complètement. On a des témoignages dingo. Et c'est ce qui, pour moi, rend un peu dystopique là, cette situation vis-à-vis des communautés d'Internet qu'on aime tous, hein, le bénévolat, l'automodération, on sait que ça peut avoir des côtés vertueux. Là, on voit quelque chose, un système, tu vois, le système des messages, il est absolument effrayant, on demande des captures d'écran, et il y avait même des accords de NDA, donc de non-divulgation.
Qui ne valent rien, apparemment, ouais.
Et ça, c'est ce qu'on voit quand on est journaliste de jeux vidéo et ouais. qu'on a les jeux en avance, quoi. C'est des trucs qui sont faits par une entreprise avec des juristes qui sont là, en fait, pour faire taire des bénévoles. Enfin, il y a un système d'exploitation, pour moi. Ça montre les embryons d'un système d'exploitation. En plus, sur Minecraft, où on a des gens jeunes, qui ne sont peut-être même pas encore dans la vie active, voire même, il y a peut-être de l'exploitation de mineurs dans cette affaire, ce que je trouve absolument révoltant, quoi.
Ouais. Et bah, je crois que c'était Pomme, justement, qui expliquait qu'elle était étudiante à côté, et que, bah, vu qu'elle devait continuer à suivre ses études, il y avait certaines nuits où elle dormait une heure, en fait, juste pour pouvoir continuer à suivre tout ça. Enfin... C'est un très large sujet et je pense qu'on va continuer à entendre parler pendant encore un moment et je serais ravie de continuer à travailler dessus.
Non, c'est clair.
Et un peu plus inquiété.
Julie et Pierre, vous en avez entendu parler. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu les news et tout ça? Enfin, est-ce que c'est la même chose que moi ou est-ce que c'est moi qui suis définitivement trop vieux pour ces histoires? Mais c'est vrai que j'ai mis énormément de temps. Je pense qu'en 2 heures, j'avais pas tout à fait commencé à comprendre le principe de ce qui était en train de se passer. J'ai trouvé ça extrêmement complexe à comprendre.
Alors moi, comme toi, hein, je veux dire, sur ce serveur spécifiquement, j'en connaissais pas l'existence, et je crois que le moment où j'ai commencé à en entendre parler, c'était au moment où des noms de streamers français commençaient à sortir, comme Antoine Daniel ou Bagheera Jones, et là j'ai commencé à me dire, ah, ok, on va dérouler le fil. Et après, j'ai eu très vite le sentiment de revoir... des histoires qu'on connaît déjà, hein, sur le bénévolat sur Internet, des personnes qui sont un petit peu maintenues parce qu'on leur dit, on leur laisse sous-entendre qu'elles sont remplaçables. Il y a plein de personnes qui adoraient avoir le privilège d'être bénévole 100 heures par semaine sur ce serveur. Enfin bref, c'est donc à la fois une sorte de sentiment de déjà-vu par rapport aux structures en place, mais la sensation d'avoir ouvert une porte sur un pan du jeu vidéo et d'Internet que je connais pas bien, parce que je connais très mal Minecraft, quoi.
C'est générationnel, moi pareil que toi Julie, Erwan aussi, c'est des gens plus jeunes qui m'ont un peu alerté, j'ai vu passer des trucs sur Twitter mais un peu tard, et voilà, les gens qui ont grandi avec Minecraft aujourd'hui le captent beaucoup plus rapidement que des joueurs un peu plus anciens comme nous.
Et c'est comme le sujet de Roblox, enfin tu vois ce que je veux dire, le vaste sujet de Roblox, mais pareil, j'ai l'impression d'en avoir entendu parler très tard, même si il y a eu des signaux d'alerte avant. En fait, je m'y suis intéressée au moment où People Make Games a fait une vidéo sur le sujet et expliqué à quel point on avait essayé de les faire taire sur ce sujet spécifique, mais c'est un phénomène de cours de récré depuis excessivement longtemps, et oui, c'est dur de ne pas se sentir
Mais c'est aussi parce que ça passe pas par les canaux qu'on a l'habitude de voir, en fait. Roblox, il n'y a pas de marketing autour, c'est que du bouche à oreille, notamment dans un cours de récré. Et pour QSMP, c'est pareil, c'est dans des sphères qu'on ne suit pas forcément, sur certains streamers, etc. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment du point de vue où j'ai toujours eu l'habitude d'avoir ce genre de sujet à devoir traiter, parce que justement, les journalistes qui sont peut-être un peu plus âgés, je ne dis pas que vous êtes vieux.
Moi, ça va.
Mais n'ont pas eu l'habitude de traiter ces sujets-là. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est juste une répétition, en fait. fait, de ce qu'on voyait avant. On se plaignait que les médias généralistes ne traitaient pas des sujets de jeux vidéo, etc. Oui. Ils n'y connaissent rien, ils n'ont personne pour traiter ce sujet-là et tout. Et puis finalement, bon, on en a parlé pour Toriyama il n'y a pas longtemps, du coup. Pas du jeu vidéo, mais voilà. Et puis finalement, dès que tu bouges un peu, et ben c'est exactement la même chose après par les personnes qui se plaignent aussi. Donc c'est assez drôle.
Est-ce que tu as suivi, parce que c'est vrai qu'il y a eu ces papiers de Combini et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a eu d'autres témoignages. C'est juste par curiosité après, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent ailleurs dans le monde? Parce que moi j'ai vu des trucs, il y a eu des mêmes genre, c'est la révolution QSMP en France, mais les Français veulent brûler QSMP, mais en fait tous les autres, tu dis que l'Allemagne vient d'arriver, ça veut dire que en gros, Quackity, il est tranquille, ouais.
Ouais, il y a eu aussi un témoignage que j'ai survolé vite fait parce qu'il est sorti plus tard en Grande-Bretagne, pareil, d'une administratrice ou un administrateur, je sais pas. Mais ouais, en fait, le vendredi là, quand j'ai fait ma petite chronique, et ben le lendemain, il y a eu les QSMP Awards.
Mais oui.
Pour récompenser. Ça va, ça se passe bien. Il y a des Brésiliens aussi qui ont un peu bougé. Il y a une grosse communauté brésilienne sur QSMP, mais ça reste en fait à chaque fois, et ça me fait vraiment, ça m'a vraiment étonnée, mais c'est les communautés qui, dans l'e-sport et le stream en règle générale, sont aussi les communautés connues pour être le plus engagées dans le soutien de leurs équipes, en fait, que ce soit le Brésil ou la France. C'est vraiment qui sont connues du coup dans l'e-sport, mais aussi dans le stream, pour être vraiment très, très engagées. Et bah, c'est les mêmes qui savent prendre la parole aussi pour essayer de dénoncer du coup les mauvaises conditions de travail. Donc ça, je trouve ça cool. Le coup.
Mais parce que c'est vrai que de toute façon, d'après ce qu'on voit, les conditions sont les mêmes partout. C'est-à-dire que en fait, on parle de salaire mensuel pour les gens qui sont payés, c'est de genre de 150 euros par mois.
Voilà. Bah ouais, Léa disait qu'elle avait reçu 150 euros pour 4 mois apparemment.
c'est ça, et qu'elle est toujours en attente de paiement de certains.
Ouais.
Et en fait, ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai que ça ouvre aussi tout un débat sur le bénévolat d'une manière générale sur Twitch. Je crois qu'il y a Gébron et Larle qui sont pas là, Madingue qui est à peu près modérateur sur
partout.
qui est exceptionnel là. Gébron et Larle ont la gentillesse d'être là, mais c'est vrai que moi il y a aussi toute l'équipe de modération, par exemple sur le Discord de Science en Joue, il y a une équipe de modération sur le Discord d'Origami chez CPC aussi, mais moi je ne me vois jamais donner la moindre instruction. Enfin, en fait ils sont là, c'est extraordinaire. Enfin, les modératrices, modérateurs qui acceptent de filer un coup de main et ce genre de choses. Moi, ce que je dis, c'est en gros, le serveur Discord n'existerait pas sans eux, parce que le fait est que j'ai absolument pas les moyens de salarier de la modération là-dessus. Donc finalement, c'est aussi leur serveur Discord qui font vivre. Mais c'est vrai que c'est pas le cas partout. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal de fois où utilisant de la notoriété, on sait que le lien parasocial chez les streamers, streameuses à succès est monumental, et que ça peut aussi aboutir à des abus. Je pense que QSMP n'est pas le dernier et pas le premier exemple là-dessus, quoi.
Ouais, ça c'est sûr. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de discussions en fait à avoir, que ce soit entre nous, personnes qui profitons en fait de ce bénévolat de modération, et puis aussi avec ces personnes-là pour trouver en fait quelque chose qui soit plus viable, peut-être quelque chose de plus carré, je sais pas. Mais ouais, ça fait beaucoup réfléchir du coup chez Origami notamment. Parce que, tu sais, il y a aussi... Ça, c'est très journalistique, mais la question, on va pas traiter un sujet parce que, pour le moment, on n'est pas carré autour de ça, tu vois. Ce serait, du coup, choisir une information par rapport au fonctionnement de ton média. Ce serait un peu bizarre. Et du coup, c'est bien parce que ça crée des discussions aussi chez nous directement. Donc, c'est cool. Ça fait avancer un peu partout.
Non.
Et c'est pas mal.
Ouais, c'est clair. On va passer un petit peu du côté du chat. Ça a l'air d'être à jour. Je n'ai plus du tout confiance en la technique aujourd'hui. Hein. Je vous préviens.
Il y a plein de messages d'appréciation au modo, et c'est vrai que, ouais,
voilà.
appréciation pour les modos, parce que franchement, sans
plein de cœur sur les modos, que même si, et c'est le cas sur Origami, c'est le cas dans Silence on Joue, même si c'est pas des charges de travail monstrueuses, même si, grosso modo, les ambiances sont bonnes, qu'il n'y a pas 60 messages à dilette par jour, ça reste une veille, ça reste une présence, ça reste ce genre de choses. Enfin, c'est aussi... c'est aussi un vrai travail, quoi, d'être là. C'est pas juste Enfin bref, ce que tu as posé comme question, Héloïse, est totalement légitime là-dessus. C'est important. Hop, si vous avez des réactions, des questions et tout ça, n'hésitez pas, on prend quelques...
Ça parle de la difficulté d'être jeune journaliste aujourd'hui dans la presse JV, c'est ça?
Bah ouais, du non-renouvellement des rédactions, parce que c'est...
Ah ça.
Double frein au fait que les jeunes renouvellent la presse JV, il faut pouvoir encaisser les conditions économiques ignobles, que 300 € de pige, les bons mois. Ah bah oui, c'est Von Yaourtin qui dit ça, les organes de presse n'ont plus les reins assez solides pour couver les anonymes afin qu'ils se fassent une place, c'est trop risqué de miser sur autre chose que des têtes connues. C'est un problème. C'est un problème qui était adressé d'ailleurs au lancement d'Origami. Hein. Vous en aviez parlé, hein, de fait d'être aussi en vase clos, de faire rentrer des nouvelles têtes, de faire travailler. Tout ça, c'est toujours un objectif, mais c'est.
Bah pour le moment, on reste encore sur le line-up originel parce que bah on attend juste de pouvoir être plus stable pour pouvoir avoir des fonds à allouer pour à de nouveaux formats. Mais ouais, c'est des jeux sur lesquels on travaille beaucoup pour essayer de. Enfin, beaucoup. On travaille dessus pour essayer d'améliorer les choses, mais c'est vrai que, enfin, je pense que c'est pareil pour toi, Julie. C'est difficile en fait de trouver des personnes actuellement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté juste le métier.
Ouais. Ouais.
Au niveau des piges, etc., c'est toujours un peu compliqué. Et puis juste, enfin, être pigiste, c'est comme disait Von Yaourtin, mais dans la presse JV, mais c'est l'enfer juste.
Ouais, c'est
tu peux pas en vivre. Hein.
Non, donc, c'est clair. Franchement, c'est, enfin, pour avoir tenté de le faire, c'est quasi impossible, franchement.
Donc, ouais. Gros cœur aux pigistes aussi.
Bah ouais, c'est
quelques-uns qui continuent à écrire et à garder la foi. Merci beaucoup. Ayant été bénévole dans le sport, Tabensar, pendant des années, le sacrifice personnel existe sûrement dans beaucoup d'autres secteurs. Pas simple d'avoir des gens qui s'investissent pour une cause qui est motive et en même temps faire attention à la charge de travail qui en découle. Oui, mais après, c'est comme tu disais, quand des bénévoles pour des associations, déjà, ça peut aboutir à des excès et des choses comme ça, mais ce sont des associations à but non lucratif et il y a un cadre légal. C'est vrai que sur Internet, en ce moment, on n'est pas... Il y a cette absence de cadre et de ne pas être pour des trucs à but non lucratif, donc c'est... Toujours,
Et puis, ils peuvent pas jouer sur le fait que ça rapporte pas d'argent non plus.
Non.
Quoi, parce que, bon...
Non, oui, du côté de QSMP, oui, j'ai l'impression qu'en termes de stream, il y a quand même... En plus, le succès est monumental. Hein. On n'avait pas dit, mais c'est en termes de vues, en termes de tout ça, c'est assez impressionnant.
Et ça a eu des conséquences très positives pour les streamers et les streameuses français qui ont vu, du coup, juste leur audience mais exploser.
Ouais.
Même quand elles tweetent ou il ou elle ne tweet ou publie des choses en français, tu vois des commentaires brésiliens, tout. Qu'est-ce qui se passe?
On va continuer à regarder ça maintenant qu'on sait de quoi on parle. QSMP, Quackity, Survival, Minecraft, je sais plus quoi, mais bon, il y a un sens.
Multiplayer.
Surviving. Merci. Parce qu'on n'avait pas dit à quoi ça faisait référence déjà, les initiales QSMP. On va terminer cette émission. Oui, j'ai dit que je n'arrivais plus avec mes sujets de fond hors sol, mais si, encore. je vais pas m'arrêter en si bon chemin, on revient là-dessus. Déjà c'est le titre le plus long, mais c'est le futur du jeu vidéo fait-il encore rêver. Alors je reprends mes notes parce que en fait c'est une question que je me suis posée il y a quelques temps déjà. C'est parce que en gros j'avais écrit dans des vieux trucs il y a longtemps, mais je trouvais que depuis le début en fait le jeu vidéo ça c'est toujours c'est un truc qui s'est toujours projeté dans le futur, mais toujours, voire même qui a façonné le futur. Il y a toujours promis plus d'immersion, plus d'interactivité, plus de réalisme. Et d'ailleurs, en fait, ça m'avait fait rire parce que, en fait, le progrès dans le jeu vidéo, ça a d'abord été comptabilisé à partir de la longueur des mots manipulés dans les processeurs. Les 8 bits, 16 bits, 32 bits, il fallait progresser en nombre, dans ces longueurs de nombre de bits. Et le truc, c'est, après, il y a eu la 3D, la connectivité à Internet, il y a eu le photoréalisme, le motion gaming, la VR. Bon, la VR, ça a été tout le temps, mais encore plus depuis la dernière décennie. Et en fait, J'ai l'impression, ça fait... Alors, c'est pas récent. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de traîner depuis peut-être 5-10 ans, j'en sais rien. Je demande votre avis là-dessus. Mais aujourd'hui, le futur du jeu vidéo, ça s'est inséré partout. C'est-à-dire que t'as Apple qui sort un casque trop cher qui sert même pas à jouer. D'ailleurs, du coup, à quoi ça sert, je sais pas.
Faire des réunions, waouh.
Hein ?
C'est quand même super de pouvoir faire des réunions à distance.
Mais oui.
En fait, c'est dur de, comment dire, d'avoir l'occasion de rêver avec un casque qui a l'air d'avoir des fonctionnalités spécifiques pour le travail.
Vas-y, fais rêver avec ça. Concernant les technos du jeu vidéo, t'as le cinéma qui sert, on sait, les décors là, sur Unreal Engine, qui sert à faire remplacer les fonds verts sur les grands écrans pour faire les décors qui bougent et tout ça, ce qui vient du jeu vidéo. J'en avais parlé la dernière fois sur l'IA générative, mais t'as quand même, c'est le jeu vidéo qui a fait progresser les cartes graphiques suffisamment pour que elles servent aujourd'hui totalement à autre chose. Mais j'ai l'impression...
Au Bitcoin.
Le Bitcoin.
Mais
ça sert à miner le Bitcoin et tout ça. Et à faire des IA génératives. Et en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le jeu vidéo... Enfin, je sais... Est-ce que vous attendez quelque chose de la PlayStation 6?
Non, mais
c'est, je savais que ça allait déclencher cette réaction. Mais en fait, c'est une des premières fois où en fait on se projette plus du tout dans les promesses technologiques du jeu vidéo. Je sais pas si vous comprenez.
Oui. Je vois. Enfin, moi, en tout cas, par exemple, ce qui peut me faire rêver, ça va être plutôt le fait que des outils sont démocratisés, sont devenus plus accessibles pour certaines personnes qui veulent faire du jeu vidéo. Ce qui veut dire qu'on a une offre qui se diversifie, etc. Mais sur tout ce qui touche aux promesses purement technologiques, bah oui, non. En tout cas, ça fait un moment, moi, que la course au photoréalisme me touche plus parce que on a atteint, enfin pour moi, un palier qui est déjà extrêmement bluffant et vraiment, enfin si je pouvais dire à la moi du passé qui commençait à jouer, à voir des polygones et à se dire c'est magnifique, jamais rien vu d'aussi réaliste, ce qu'allait se passer plus tard, c'est sûr qu'elle aurait rêvé. Là maintenant, bah c'est surtout que comment dire, c'est devenu difficile d'être complètement bluffé par la qualité des ports des joueurs de NBA 2K par exemple, enfin des joueurs de basket de NBA 2K. On arrive à un stade où oui, d'accord, c'est bluffant, mais ça va être difficile en tout cas pour moi de trouver quelque chose de qui va au-delà de ça. C'est déjà assez exceptionnel ce qu'on vit en ce moment. La VR par contre, enfin, je maintiens que moi c'est un truc qui ressemble vraiment au futur du jeu vidéo tel qu'on me l'avait promis et qui malheureusement aujourd'hui est limité parce que bon bah c'est une technologie c'est excessivement cher, le catalogue de jeux est extrêmement réduit, donc ça donne pas forcément envie, mais je continue de rêver d'un monde où ça se démocratiserait, en tout cas d'un côté purement loisir, enfin je parle pas du tout des casques Apple qui nous aident à travailler quoi.
Côté édition, il y a un des futurs des jeux vidéo qui moi me fait pas rêver, c'est celui des remakes et des franchises. Donc voilà, il y a un peu ce côté-là qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo s'est vendu sur sa promesse, hein, c'est purement de l'imaginaire, de technophilie, de toujours de meilleurs techno et tout, mais il se confronte à une dure réalité, c'est qu'il est dans une situation où il est un peu en train de se diversifier, comme tu dis Julie, et je trouve que c'est aussi un bel âge, c'est un peu ce qui a été le rock dans les années 70, on dit souvent un peu le prisme des Pink Floyd, vous voyez, où la lumière se diffracte et le rock explose en plein de genres différents qui vont accoucher, qui va pas être dans une histoire très linéaire avec des courants qui arrivent au fur et à mesure, mais plein d'une coexistence de plein de mouvements différents. Et je pense que le jeu vidéo est à cet âge-là où les méga-productions sont en train un peu de s'effondrer en elles-mêmes. Il y en a plus beaucoup sur elles-mêmes, il n'y en a plus beaucoup qui font beaucoup rêver, hein, on va dire un Zelda ou un GTA 6. Et on a plein de petits genres qui sont travaillés. On parlait du roguelite tout à l'heure, les jeux de survie qui ont cartonné en début d'année. Et on se diffracte et il y a plein de petits genres qui sont en train de se consolider. Et voilà, et il y a plein de locomotives différentes du secteur. Et moi, c'est un peu ce futur-là qui me fait rêver aussi. Celui d'un âge où on a plein de possibles et où on a des expériences très, très matures sur des genres différents et de l'inventivité, quoi, très, très forte. Dans différents genres, plutôt que des grosses locomotives, en général guidées par les constructeurs et les éditeurs, une PlayStation 6 qui, pour le moment, nous fait pas rêver, quoi.
Il y a les évolutions du coup visuelles qui font pas particulièrement rêver parce que le passage de la PS4 à la PS5, c'est vrai que on était tous un peu bon, bah ok, c'est cool.
Les reflets dans les flaques d'eau. Les reflets dans les flaques d'eau.
Ok, et puis il y a surtout aussi, bah, on est tous un peu conscients de ce que ça coûte en fait, juste en termes d'énergie maintenant. Et pour ce résultat, tu vois, quand tu fais la balance un peu de est-ce que ma satisfaction à voir justement tous les pores de la peau par rapport à ce que tu sais que ça a coûté, est-ce que ça permet de s'équilibrer, bah maintenant plus vraiment. Moi le truc c'est que je crois que j'ai commencé ma carrière, tout le monde était déjà cynique en fait, donc on était déjà, il y avait déjà tous ces trucs par rapport à l'écologie, par rapport au fait d'arrêter la course au réalisme et tout qui était déjà passé, on avait déjà été bluffés et du coup j'ai jamais été dans cette attente, surtout qu'il y avait plus les gros événements, le 3 s'est vite terminé, donc on a plus ces moments pour créer la hype peut-être artificiellement, mais on l'a plus quoi qu'il arrive, tu vois, donc on va vivre chacun de notre côté, dans notre canapé ou devant notre PC en fait les grosses annonces. Et sur Twitter, mais enfin, je veux dire, il y a plus cet engouement comme avant, doublé au fait que bah on veut, pour la plupart, beaucoup, bah quelque chose de plus simple et juste de plus peut-être recherché, moins automatique sur certaines mécaniques de jeu. Bah ouais, le futur du jeu vidéo, là actuellement, la continuité qu'il a, c'est pas quelque chose qui nous fait rêver. Mais après, il y a plein de possibilités qui peuvent très bien fonctionner et tout un pan du jeu vidéo qui fait encore rêver mon avis.
Non, et puis sur la maturation du média en tant que tel, c'est clair que là, pour moi, c'est le truc qui me fait le plus rêver actuellement, quoi.
J'ai l'impression que, oui, de notre côté, ce qu'on attend du jeu vidéo est évidemment beaucoup plus lié à ce qu'il produit que ce sur quoi il est produit. Mais j'ai l'impression que l'industrie, le secteur lui-même du jeu vidéo, a un peu de mal à se dire ça, en fait. J'ai l'impression qu'on est toujours... Enfin, quand... On en a reparlé. Je vais pas parler de est-ce que c'est intéressant ou pas, mais il y a quelques mois, c'était les NFT où pour se projeter dans l'avenir, il fallait qu'il y ait des éditeurs, il fallait prendre les NFT au sérieux parce que les NFT c'était l'avenir. Je vais pas en reparler, mais ce qui s'est passé à la GDC, de ce dont on a parlé en début d'émission, il y a aussi de ça, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de projeter son propre avenir sur le reste, le jeu vidéo se dit ah oui non mais il faut quand même un peu que je parle de l'avenir, que je puisse proposer quelque chose de désirable ou de ce genre de choses. J'ai l'impression, enfin vous avez peut-être pas du tout le même, mais j'ai l'impression que côté industriel, quand même le fait de se projeter dans l'avenir reste une sorte de marotte, enfin même d'obligation contractuelle en fait, je sais pas où enfin quand Ubisoft fait ses démos, regardez ce qui va se passer, ou quand Square balance tous ces trucs sur les NFT et tout ça, il y a quand même une sacrée volonté de dire non mais regardez, on est encore hype, on veut
être... Ouais. Mais je sais pas s'ils pensent à l'avenir quand ils font ça, ou qu'ils pensent plutôt pas au buzzword du moment qui va permettre de faire rester les actionnaires, tu vois. Parce que, enfin, on a beaucoup parlé de Beyond Good and Evil, mais enfin quand ils le présentent, je sais plus c'était quand, en 2016 ou quelque chose comme ça, c'est clairement pour une raison plutôt de politique d'entreprise, tu vois. Et finalement, vu les résultats qu'on a actuellement, je pense qu'en fait, que ce soit les NFT, le métavers, peut-être qu'ils y ont vraiment cru, peut-être qu'ils ont envisagé le jeu vidéo comme ça, mais il y avait surtout, je pense, pour moi, quelque chose d'instantané, du fait de pouvoir réagir avant le bilan fiscal et pouvoir se replacer sur la map en tant que quelque chose qui va faire bouger les choses, enfin l'industrie, au niveau des actionnaires, plus qu'une question de futur du jeu vidéo. Je sais pas s'ils y croient vraiment.
Non. Peut-être. Non. À ton avis, Pierre, ils y croient ou pas à ce qu'ils racontent?
Pour moi, c'est clairement... là, on parle sur les PNJ et l'IA. Hein. C'est clairement une façon de ne pas louper le train en marche, en fait. Il y a une peur panique de certains éditeurs de rater un grand tournant. Et moi, je pense par exemple à Quark. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que c'était, d'Ubisoft.
Ah oui. Ah oui.
Le système de NFT.
Quark. Ah oui, d'Ubisoft. Ah oui, ouais, j'avais déjà oublié, pardon.
J'avais oublié.
Comme le truc qui allait changer le monde et tout. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, j'ai rien contre les équipes de R&D, en fait, qui proposent des prototypes, parce que ça fait marcher le jeu vidéo, clairement, dans tous les sens. Là, on voit que la surface émergée, la partie émergée de l'iceberg, mais c'est tout le discours autour, beaucoup de médias, d'éditorialistes un peu vite fait, qui vont dire, tiens, on va mettre de l'IA dans les PNJ, enfin, alors qu'ils sont déjà des IA. Et qui vont créer un gros débat et qui sont finalement téléguidés pour, comme le dit Héloïse, effectivement, faire plaisir aux annonceurs et dire qu'on est toujours aussi innovant. Donc voilà, moi je me méfie un peu de tous ces buzzwords, et je trouve que c'est une des valeurs du métier de journaliste, une des vocations aussi de remettre les choses en contexte, d'expliquer un petit peu dans quel contexte se placent ces annonces et à quoi ça nous confronte. Est-ce que c'est pour un avenir proche, quelque chose qui est presque en place, ou au contraire, là, on est dans du lointain, quoi, sur les IA génératives pour le texte des PNJ.
J'ai toujours aussi considéré, peut-être à tort, mais que les triple A, en tout cas ce qu'ils appellent maintenant les quadruple A, pardon, hein, j'ai oublié, mais c'était aussi des trucs qui étaient censés montrer les capacités techniques les dernières capacités techniques des dernières consoles ou des dernières cartes graphiques, évidemment, parce qu'on parle forcément de la PS6, mais je peux aussi vous parler de la 5080 qui va pas tarder. C'est à peu près la même chose, mais j'ai toujours eu l'impression qu'une des raisons d'être des triple A dont on parle, sauf peut-être quelques-uns comme qui sont passés à autre chose, genre GTA 6, c'est pas lié, c'est autre chose que de la pure qualité graphique, etc. Mais une de leurs raisons d'être à ces jeux très très coûteux, c'est d'être très très beau. C'est lié aussi.
Et de faire quasiment office de démo technique.
Mais donc si on n'attend plus le futur, est-ce qu'on attend encore des triple A? Non.
Bah, en fait, le problème aussi, c'est que juste ces studios, ils ont embauché énormément de personnes, donc il faut bien les faire travailler, il faut bien mettre le budget quelque part, dans un certain sens. Mais est-ce que nous, on l'attend ? Ça, je sais pas.
Ouais.
Je ne pense pas. Moi, je l'attends pas, en tout cas. Mais...
Non, mais
en tout cas, pas sur le photoréalisme.
Non, pas sur le photoréalisme.
Ouais.
Yoxotat qui dit « Je ne suis pas entré triple A si le gameplay me plaît, mais je peux m'en passer pour la plupart. » C'est ça, en fait. Hein. Moi, c'est vrai que ce qu'on attend, mais ce que tu dis, c'est les trucs en mutation, Pierre. C'est qu'on est, on est à un stade où finalement, on attend plus du jeu vidéo qu'il aille chercher des nouveaux horizons, des nouvelles choses. J'attends des triple A qu'ils piochent dans les innovations importées par les indés, comme la tendance roguelite dont on parlait. Voilà, donc inspirez-vous des indés. Bref, si vous avez des réactions, je suis désolé, j'arriverai peut-être avec des sujets un peu plus terre à terre la prochaine fois.
Mais non, mais c'est super,
non,
comme
c'est
question.
Intéressant.
Mais c'est vrai que c'est, on pourrait en parler pendant 4 heures, je pense, hein, rien que sur la question du photoréalisme et de. Et même la réalité virtuelle, enfin, et les promesses possibles qui restent encore d'un point de vue technique.
Et le sujet écologique aussi. Genre...
Ouais, oui, c'est vrai que tu l'as évoqué, j'ai pas rebondi dessus, mais c'est vrai que ça pose. Il y a des questions aujourd'hui, mais même on en a parlé au moment de la PS5, il y avait quelque chose, je sais pas chez vous, mais quand on devait parler de la PS5 en tant qu'objet. Qu'est-ce qu'elle fait, voilà, c'est la nouvelle console et tout ça. Moi, il y avait un truc un peu bizarre d'arrière-goût aussi. On est en train de parler de ce truc d'obsolescence programmée monumentale des consoles à un moment où la PS4 fonctionnait encore ou ce genre de choses. Et ça fait bizarre, quoi.
Oui, et puis il y avait un moment où on parlait du cloud gaming aussi comme... comme alternative justement à cette course aux consoles plus puissantes, etc. Juste avant de comprendre qu'en fait il y avait des machines aussi très puissantes et qui aussi très 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 énergivores qui étaient derrière. Mais ouais, je me rappelle le moment où le Game Pass Ultimate était sorti, et donc il y avait cette possibilité de jouer en cloud gaming ou GeForce. GeForce Now, Play GeForce Now, voilà. Qui était aussi une possibilité. Et finalement, il faudrait que je me penche un peu plus dessus pour voir s'il y a vraiment des personnes qui utilisent, beaucoup de personnes ou pas du tout. Même au niveau du Game Pass, où c'est pas beaucoup plus cher, je crois, d'avoir le Game Pass Ultimate et donc la possibilité d'avoir le cloud. Est-ce que les gens font le pas et décident de se débarrasser d'un PC, de pas suivre en fait cette course à la meilleure carte graphique, etc., pour continuer encore à pouvoir faire tourner les jeux qui sont toujours plus énergivores? Ou est-ce que y a cette transition qui se fait doucement, mais silencieusement un peu D'un autre côté.
Je fais une dédicace sur le sujet parce qu'il est dans le chat. Il y a Von Yaourt dans le chat qui est voilà, qui est dans le côté bien spécialiste de ces sujets de développement environnementaux. Cladmi qui dit d'une certaine manière, j'espère que le Steam Deck pourrait être un étalon où tous les jeux doivent tourner dessus, quitte à ce que ce soit en mode réduit. Ça permettrait en tant que consommateur de se dire oui, un laptop de 2022 va suffire pour jouer pendant longtemps. c'est vrai que la course à l'armement aussi. Hein, des cartes graphiques et ce genre de choses, on ne peut qu'espérer que ça ralentisse à ce moment-là. Il faudrait, Von Yaourt, il faudrait que je remette tout ça à plat un jour. Il y a eu des développements depuis que j'ai écrit sur le cloud. Bah voilà. N'hésitez pas à faire appel à lui pour les nouvelles enquêtes si on nous écoute. Voilà, bon bah écoutez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois pour avoir été présents dans ce 12e épisode de Gâchette Gauche. Et puis voilà, merci à celles et ceux qui étaient avec nous dans le public. Désolé encore une fois pour les petites intempéries techniques. Mais il y en a eu que deux, franchement, je suis rassuré, c'était cool. Parce que j'ai eu peur que ça se reproduise un peu plus pendant le déroulement de l'émission. En tout cas, merci beaucoup. Et puis on se retrouve un lundi ou un mardi. De toute façon, en ce moment, il n'y a plus du tout de règles. C'est le chaos, c'est les années bissextiles. Merci Julie, merci Héloïse, merci beaucoup Pierre. Et puis on se retrouve à très bientôt pour un nouveau Gâchette Gauche. Ciao.
Ciao, merci.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.